bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Effectivement, deuxième étape de ce Tour de France. Aujourd'hui, toujours sur les terres corses, entre Bastia et Ajaccio, et les premiers cols de ce Tour de France. Et dès les premiers virages des cols de ce Tour de France, une attaque il y a quelques instants. On va tout de suite aller voir la moto RMC. Georges Quirino qui est dans l'ascension du col de Vitzavon. Salut Georges. Est-ce qu'il nous entend? Non, à la moto, on a des problèmes peut-être pour retrouver la moto. Alors, on va faire un point tout de suite avec Fred Adam, que l'on va saluer. Bonjour Fred.
Bonjour à tous.
Avec donc cette première étape de montagne, non? On peut dire de moyenne montagne.
Voilà, moyenne montagne. Trois cols en milieu d'étape, deux de troisième catégorie, un de deuxième. Et à 12 km de l'arrivée, une côte raide, même si elle est courte. À 12 km de l'arrivée.
D'accord. À 12 km de l'arrivée, il y aura une côte, mais pour l'instant, on est dans le col.
Hein. On est bien loin encore. Le col de Vitzavon, effectivement, à 72 km de l'arrivée, 4 hommes sont échappés depuis le kilomètre 0 avec le Hollandais Lars Boom, le Canadien David Veilleux et le Basque Ruben Pérez, ainsi qu'un Français, Blaise Cadry, qui tente de se faire la belle en tête de la course. Il vient de fausser compagnie à ses compagnons d'échappée, Blaise Cadry, le coureur de l'équipe AG2R, et en contre-attaque. À moins d'une minute maintenant, un homme vient de sortir du peloton. Et cet homme, il est bien connu du public tricolore. C'est Thomas Vauclair en personne, qui se sent des fourmis dans les jambes. Lui, qui a déjà remporté 4 étapes, meilleur grimpeur du Tour l'an passé, porteur de nombreux jours du maillot jaune, et qui, un dimanche de fin juin sur les routes de Corse, est en train de mettre le feu à sa manière au Tour de France. Il compte une vingtaine de secondes d'avance sur le peloton et donc 30 secondes de retard sur la tête de course. Un homme seul en tête, Blaise Cadry, le coureur de l'équipage des Aéroports mondiales.
Voilà, les Français qui se mettent en évidence dès la première étape de moyenne montagne de ce Tour de France sur les routes ensoleillées de Corse. Il fait un temps magnifique aujourd'hui sur cette deuxième étape. Il n'y a quasiment aucun nuage, du ciel bleu, une grosse chaleur, alors qu'il semble un peu dans le dur quand même, notre ami Thomas Vauclair, puisque derrière, l'avant-garde du peloton, ça a réagi, notamment sous l'impulsion des coureurs de la FDJ. Alors, on sait que entre Marc Madiot et Jean-René Bernodeau, c'est pas le grand amour, et on se demande si Marc Madiot n'aurait pas demandé à ses hommes de rouler sur Thomas Vauclair. En tout cas, il y en a un qui profite bien de la situation, c'est Blaise Cadry, le coureur de la formation AG2R, qui est donc seul en tête. Cyril Guimard est dans la tribune commentateur. Bonjour Cyril.
Oui, bonjour. Alors je voudrais rectifier une toute petite chose, Christophe, car en fait c'est pas la Française des Jeux qui réagit derrière Thomas Vauclair, car la Française des Jeux avait commencé à accélérer, ce qui a provoqué le lâchage, et on va en parler peut-être un peu plus loin, de Cavendish et du maillot jaune, et ils emmenaient tout simplement Boigny, et c'est là que Vauclair a attaqué. Donc c'est dans l'autre sens que les choses se sont faites, et pas la Française des Jeux qui réagit, on va dire.
Mais ils sont en tête de peloton, hein, tout de même, hein, ils sont 5 ou 6 avec le maillot de champion de France.
Non mais Christophe, c'est eux qui ont embrayé.
D'accord.
Et Vauclair a attaqué après.
D'accord, mais Vauclair...
c'est pas dans l'autre sens.
D'accord, mais Vauclair est actuellement rejoint donc par la tête de peloton, emmené par les coureurs de la Française des Jeux. Ils ont des fourmis dans les jambes, tous ces garçons-là. Hein.
Avec un atout maître pour le classement général, Thibaut Pinot, évidemment, mais peut-être que la carte aujourd'hui s'appelle Arthur Vichot, le nouveau champion de France. C'est un terrain particulièrement à sa convenance. Aujourd'hui, c'est un coureur qui sait à peu près tout faire, excepté être ultra performant contre la montre et évoluer avec les meilleurs en haute montagne. Mais sur un terrain de moyenne montagne, avec cette ultime difficulté à 12 km de l'arrivée, Arthur Vichot pourrait montrer son beau maillot bleu, blanc, rouge à la face du public du Tour de France. Pour l'instant, c'est un autre tricolore qui ouvre la route, on vous le rappelle, Blaise Cadry, qui désormais est seul en tête avec 50 secondes d'avance sur le peloton. Le peloton qui vient de rattraper Thomas Vauclair. Les anciens compagnons d'échappée de Blaise Cadry ont eux aussi été absorbés par l'avant-garde du peloton, et donc la situation est on ne peut plus claire, limpide, à 70 km de l'arrivée. Un homme seul en tête, il est jeune, il porte le maillot de l'équipe AG2R la mondiale, il est talentueux et il s'appelle Blaise Cadry. Aujourd'hui, les sprinteurs ne seront pas à la fête.
Les sprinteurs ne seront pas à la fête car ils sont largués par l'avant-garde du peloton. On voit notamment Marcel Kittel qui hier avait réalisé le hold-up parfait sur cette première étape en remportant l'étape. On est à la barre de Cavendish, de Greipel Vogel et autres Bouhanni, revêtant par la même occasion le maillot jaune de leader, le maillot blanc de meilleur jeune et également le maillot vert de meilleur sprinter. Mais là, Marcel Kittel est en difficulté dans l'ascension du col de Vitzavon, la bouche grande ouverte, le maillot complètement ouvert. Il fait chaud aujourd'hui, hein, Fred, sur les routes du Tour.
Ah oui, pas loin de 30 degrés, des airs de vacances avec des panoramas en mondovision qui font une promotion sublime pour cette belle île de beauté bien nommée la Corse, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'après la remontée de la plaine orientale hier entre Porto Vecchio et Ajaccio, aujourd'hui on rentre dans les terres, et même si l'on reste sur une nationale qui traverse l'île, eh bien on passe au milieu de montagnes et on s'élève jusqu'à 1100 mètres d'altitude aujourd'hui, c'est à noter, avec arrivée en bord de mer. C'est dire si le dénivelé aujourd'hui sera important, mais c'est vrai que c'est un terrain particulièrement escarpé. Demain ce sera encore une autre paire de manches, mais aujourd'hui la course s'élève dans tous les sens du terme. Le coureur français de l'équipe AG2R La Mondiale, Blaise Cadry, est le dernier à résister aux assauts du peloton. À 69 km de l'arrivée, il ne compte plus, lui, le vainqueur d'une belle course en début de saison, la Roma Maxima devant le Colisée. Là aussi il avait choisi un cadre magnifique, le Toulousain de l'équipe AG2R La Mondiale, Blaise Cadry. Eh bien aujourd'hui il ne compte plus que 35 secondes d'avance sur le peloton. Il a raison d'en profiter, mais il s'inquiète à la
voilà,
de la course.
Il a raison de s'inquiéter. 35 secondes d'avance donc sur l'avant-garde du peloton. Nous avons franchi le col de la Serra, classé en troisième catégorie. Il y a un petit replat et ensuite une dernière difficulté à franchir aujourd'hui, le col de Vitzavon. Non, il y aura encore une dernière difficulté juste avant l'arrivée à Ajaccio. Donc ça chauffe aujourd'hui sur les routes du Tour. Il est 15h56. On va se retrouver juste après les infos de 16h donc pour le final de cette étape. Tiens d'ailleurs, avant de passer aux infos, c'est l'heure du jeu Tour de France RMC aujourd'hui. Je vous offre la possibilité de gagner votre place VIP pour assister à l'étape de vendredi prochain entre Montpellier et Albi. Vos billets de train, la nuit en hôtel 4 étoiles, la veille de l'étape, le survol d'une partie de l'étape en hélico, puis dans une voiture de l'organisation, déjeuner, accueil dans le car VIP sur la ligne d'arrivée. Bref, un magnifique cadeau et une journée de rêve pour tous les fans du Tour de France. Pour tenter de gagner ce superbe pack cadeau, vous envoyez le mot-clé RMC par SMS au 732-16. Bonne chance.
Avec Skoda, voiture officielle du Tour de France.
Voilà, 67 km de l'arrivée. On va s'interrompre quelques instants. Un seul avant-terme, c'est un Français, Blaise Cadry, de la formation AG2R. Il ne possède plus que 35 secondes d'avance sur l'avant-garde du peloton, avec Vauclair, avec Pinot, avec tous les grands leaders de la montagne. Mais les sprinteurs, eux, sont lâchés un peu plus loin, avec un retard qui avoisine désormais les 3 minutes. À tout à l'heure, juste après les infos de 16h.
Intégral Tour, Christophe Cessieux.
La route du Tour de France, la route du Tour de Corse, plus exactement pendant 3 jours après la première étape hier entre Bastia, entre Porto Vecchio et Bastia aujourd'hui. Place à la montagne, Bastia, Ajaccio, par l'intérieur des terres et cette magnifique montagne corse avant de replonger sur Ajaccio. Il reste encore 62 km à parcourir et la situation est on ne peut plus claire. Un seul homme en tête, un Français nommé Blaise Cadry, et derrière lui le peloton avec tous les grands leaders de ce Tour de France qui pointent avec un tout petit retard, 13 secondes. On va faire un point dans un instant. On va d'abord dire bonjour à Georges Quirino. On avait du mal tout à l'heure à le joindre, mais ça y est, on l'a retrouvé dans l'ascension du col de Vitzavon. Salut Georges.
Salut Christophe, bonjour à tous. On vous entend très difficilement aujourd'hui. Je crois bien que tu viens de me saluer et je te salue en retour. On est pratiquement au sommet du col de Vitzavon, la troisième difficulté de la journée. 4,6 km à 6,5% de pente moyenne. Et donc avec cet homme seul en tête, Blaise Cadry, vous entendrez peut-être le public autour de nous. C'est vraiment une ambiance d'étape de montagne aujourd'hui. On est en plein cœur de l'île de beauté, dans un décor somptueux au milieu des massifs. On est vraiment très haut là actuellement. On est à 1163 mètres d'altitude pratiquement pour le sommet de cette ascension. Et on voit Blaise Cadry qui est encouragé, qui tente de résister au retour du peloton qui n'est plus qu'à quelques secondes derrière lui. L'avant-garde du peloton qui peut apercevoir le coureur de la formation AG2R La Mondiale qui va tenter de résister pour passer en tête au sommet et récolter de précieux points pour le maillot à pois. C'est certainement ce qu'il cherche aujourd'hui, vu comme ils se battent depuis le début de l'étape pour aller chercher ces points là donc Blaise Cadré, un seul Français donc en tête qui résiste dans les dernières pentes. C'est pas les pentes les plus difficiles hein, par rapport à ce qu'on avait eu depuis ce matin, mais voilà, on voit vraiment une ferveur populaire incroyable, digne des étapes pyrénéennes ici sur les hauteurs corses. Ouais.
Georges, une attaque en tête de peloton, Fred, il s'agit d'un des grands leaders français de ce Tour de France.
Décidément, les Français sont à l'honneur aujourd'hui. On avait vu Thomas Vauclair partir en contre-attaque il y a quelques kilomètres. C'est son équipier Pierre Roland, meilleur jeune du dernier Tour de France, vainqueur à la Tour Suir l'an passé, vainqueur à l'Alpe d'Huez, on s'en souvient, il y a deux ans. Pierre Roland qui, 12 secondes derrière Blaise Cadré, part en contre-attaque. On est encore loin de l'arrivée, à 62 km. Aujourd'hui, les Français ont des fourmis dans les jambes et d'un seul coup, ils se reportent sur Blaise Cadré, ils se retournent, ils grimacent un peu. Pierre Roland qui a peut-être lui aussi eu des fourmis dans les jambes, il se teste, lui qui a eu des soucis de santé, on s'en souvient sur le final du dernier critérium du Dauphiné, et en contre-attaque à 20 secondes derrière le duo Pierre Roland Blaise Cadré, un autre Français sort du peloton, un ancien vainqueur d'étape lui aussi sur le Tour de France, c'est le longiligne Brice Feillu, coureur de l'équipe Sojasun, vainqueur de l'étape d'Andorre Arcalis il y a 4 ans, décidément à 1 km du sommet de la journée, ouais. Le col de Vitzavone, les Français se mettent en évidence.
Alors, le druide est avec nous évidemment, il va analyser tout ça. Cyril, que cherchent nos Français aujourd'hui, la victoire d'étape ou tout simplement les points du maillot de meilleur grimpeur?
Alors, je pense les deux, mon adjudant. Les deux, mais je pense que on a vu tout à l'heure hein, Thomas Vauclair sortir dans le col de la Serra. Il avait un équipier à l'avant qui était David Veilleux, donc il avait aussi un point de relais. C'est une étape, on s'en doutait, qui peut faire bénéficier les attaquants de la victoire finale. Et maintenant, c'est vrai que Vauclair n'a pas pu revenir sur Veilleux, il a été repris par le peloton qui était déjà emmené par l'équipe de la Française des Jeux qui cherche à durcir la course depuis de nombreux kilomètres. Et puis dans cette dernière ascension hein, à 60 km de sommet, à 60 km de l'arrivée, eh bien c'est Pierre Roland qui vient de sortir et puis Brice Feuillu. Donc une course qui est véritablement lancée aujourd'hui. Hier on a eu du mal à la lancer, aujourd'hui elle est lancée. La FDJ vient de se retirer de la tête, c'est vrai qu'il y a trois Français à l'avant, donc ils disent attends, laissons quand même les étrangers travailler. Et qui a pris la barre maintenant en tête de peloton à moins d'un kilomètre du sommet, eh bien c'est l'équipe de Froome, c'est l'équipe Sky. On est rentré dans le Tour de France depuis quelques kilomètres.
Très bien, les patrons de ce Tour de France, les patrons attendus, la formation Sky qui avait remporté le Tour avec Bradley Wiggins l'année dernière et qui sont une nouvelle fois les grandissimes favoris de cette grande boucle avec Chris Froome, qui prennent donc la tête des opérations en tête de peloton. Mais en revanche, les points du col de deuxième catégorie vont sans doute tomber dans le petit sac d'un certain Pierre Roland.
C'est fait, à l'instant, Pierre Roland, 26 ans, coureur de l'équipe Europcar et leader de cette formation française, vient de passer, il passe à l'instant au sommet de ce col de deuxième catégorie à plus de 1100 mètres d'altitude. L'air est relativement frais là-haut sous le grand soleil et derrière lui on va essayer d'aller grappiller toujours des Français à la bagarre à 60 km de l'arrivée. Premier Pierre Roland au passage au col, deuxième Blaise Cadré et troisième Brice Feillu. Maintenant il va falloir s'entendre messieurs dans la longue et très roulante des descendre de ce col de Vitzavone, car derrière les Sky ont pris la main à l'avant du peloton avec le Biélorusse Vassil Kirienka qui, tel un métronome, est en train de surveiller son SRM, vous savez, son capteur de puissance, et de s'étalonner pour mener un train tout à fait régulier, qui ne met personne dans le rouge et qui contrôle les échappées. Ce sont de vrais robots, les Sky.
Ils
savent se mettre dans une configuration robotique depuis quelques mois. On les a vus en répétition.
C'est une sorte de régulateur de vitesse pour comme dans une voiture.
Régulateur de pulsation, régulateur physiologique à beaucoup de niveaux, au-delà même de la vitesse. On ne se met pas dans le rouge. On connaît particulièrement ces seuils, comme disent les coureurs, et la manière de courir ressemble de plus en plus, chez Sky en tout cas, à la façon de s'entraîner, et ils savent le faire au cours de longs stages à Tenerife notamment. ces coureurs-là, oui, au maillot noir et bleu, sont de vraies machines, on peut le dire.
Des machines de guerre. La Sky est lancée donc sur les traces de Pierre Roland, qui est donc seul en tête de la course avec une vingtaine de secondes d'avance sur un groupe de deux hommes, Kadri et un autre Français, Feyu. Brice Feyu. Et puis le peloton est un peu plus loin. En revanche, ce dont on est sûr, Fred, c'est que le maillot jaune changera d'épaule ce soir parce que notre ami Marcel Kittel est à la peine.
Il est à plus de 3 minutes, bientôt 4. Marc Cavendish est également dans les choux aujourd'hui, c'est normal. Une succession de cols à mi-étape et il reste une ultime difficulté avant d'arriver sur le golfe d'Ajaccio. Ce sera la côte du Solario, c'est bien ça. Classée en troisième catégorie, courte, un peu plus d'un kilomètre, avec une moyenne à 9%. Ça ressemble à un pic mis sur la route pour ajouter du spectacle. Jolie trouvaille que celle des organisateurs. Il y a de quoi faire sur les routes corses.
Oh là là, oui.
Mais ça nous promet du spectacle dans le final avec des punchers et pourquoi pas la victoire d'un Français, puisqu'on vous le rappelle, Pierre Roland est à l'avant dans la descente du col de Vidzavone avec 20 secondes sur Blel Kadri et Brice Feyu et 30 secondes désormais sur le peloton des principaux favoris.
Alors, Pierre Roland pourrait tout à l'heure revêtir le maillot à poids rouge de meilleur grimpeur. Il totalise 5 points, soit le même nombre de points exactement que Blel Kadri. Qui portera le maillot à poids rouge dans ce cas-là, Fred, Cyril, est-ce que, puisque les deux hommes sont
à
égalité.
Il reste une côte.
Il
reste
une côte. Mais il faut que l'un des deux marque des points.
Oui, alors logiquement, ce serait...
Ce serait Pierre Roland, il y a une raison très claire.
Le deuxième caté prime sur les troisièmes catégories, d'accord. Très bien. Oui, Cyril.
Je confirme ce que tu viens de dire. Voilà, c'est un col de deuxième catégorie. Donc c'est celui qui est prioritaire, sauf si bien sûr Blel Kadri allait marquer des points dans la dernière ascension. Mais là, je crois qu'on sera dans un autre film.
Il est râpé.
D'autant que je la connais bien la côte puisque je l'ai faite ce matin. Et il y a des passages à plus de 12%.
Ah oui, quand même.
Non, c'est un truc sérieux.
Ah oui, c'est pas pour les amateurs, un petit
bijou à 12 km de l'arrivée.
C'est parfait. Ensuite, la longue et magnifique route des Sanguinaires pour arriver sur la ligne de cette deuxième étape. On est dans un véritable décor de carte postale ici à Ajaccio. On va faire un top course tout de suite, top course complet. Nous sommes dans la descente et la grande bagarre aura lieu un peu plus tard. Mais les Français sont en tête, les Français marchent bien. Le top course de Fred Adam.
RMC Top Course.
Et on se croirait dans le final d'une étape de montagne avec Pierre Roland à l'avant de la course à 56 km de cette deuxième étape entre Bastia et Ajaccio, étape de moyenne montagne. Pierre Roland, le leader de l'équipe Europcar qui vient de sortir du peloton et qui compte 25 secondes d'avance sur un duo de coureurs français, Blel Kadri et Brice Feyu. Le peloton n'est qu'à 30 secondes. Le maillot jaune de Marcel Kittel navigue à plus de 6 minutes avec beaucoup d'autres sprinteurs.
On retrouvera la moto RMC tout à l'heure. Elle est dans la descente à toute vitesse avec Marc Combes, évidemment, notre motard, et Georges Quirino. Il y en a un autre qui est à fond. Non, il s'est arrêté sur le bord de la route. Il est prudent. C'est notre ami Dédé.
Il est où, Dédé?
Voilà, André Bancada de l'Assemblée des départements de France qui surveille la route avec son gros Léon et avec tous ses coéquipiers. Salut, Dédé.
Salut Christophe, bonjour à tous.
Bon, on a vu magnifique route, évidemment. On a l'impression qu'elle a été refaite spécialement pour le Tour de France. C'est une véritable autoroute, hein, entre Bastia et Ajaccio. Une autoroute de montagne, mais une véritable autoroute tout de même.
Oui, de toute façon, c'était dès l'origine une route qui était large. Hein. C'est une nationale, c'est une voie vraiment de très bonne qualité. Et puis, dans les endroits qui étaient un peu moins bons, qui laissaient un chouïa à désirer, eh bien, ma foi, ça a été refait, intégralement refait. Vous l'avez vu tout à l'heure dans la montée du col de Vidzavone. Vous le verrez également dans la descente, puisqu'il y a quelques passages sinueux, entre autres quand on va passer du côté de Cocognano. Eh bien, à ce moment-là, la traversée du village, qui n'est pas très très étonnée, pas très très large, le village lui est très joli, mais en revanche, la route qui était un peu dégradée a été intégralement refaite. C'était un tapis. Comme dirait l'autre chose, ça va rendre très bien.
Très bien. Donc pas de danger particulier pour cette longue descente vers Ajaccio là, hein, puisque depuis Vidzavone jusqu'à Ajaccio, maintenant c'est de la descente.
C'est de la descente. C'est une rampe de lancement. Hein. C'est large, ça tourne évidemment à certains moments, mais il n'y a pas de lacets compliqués à prendre. Si on prend bien les trajectoires et si on est bien en ligne, ça devrait passer très très vite. Toto, je répète que la route est en excellent état et il n'y a aucun risque de rechevage ou de gravillonnage à craindre puisque c'est une route qui voit passer quand même pas mal de voitures le reste de l'année. Donc ça va être très très roulant jusqu'à l'arrivée, c'est 12 km. Et je vous entendais tout à l'heure parler de la dernière côte, celle de Saint-Mario. Je confirme que c'est un truc bizarre, une espèce de verrue posée à 12 km de l'arrivée, avec des pentes parfois, comme lui disait le druide, à 12%. Ça monte très très raide, et c'est surtout la descente qui est impressionnante parce qu'elle est vraiment étroite. C'est sinueux et on arrive juste avant le front de mer avec un 90 degrés sur la droite.
Ah oui.
Qu'il sera qui finit directement dans la Grande Bleue.
Très bien. Bon, on sait jamais, c'est peut-être là que sera jugé l'arrivée aujourd'hui, hein, puisqu'avec ce qui s'est passé hier, on ne sait pas trop où sont les lignes d'arrivée, hein, en ce moment, sur le Tour de France. On verra. Merci Dédé, en tout cas, toutes ces infos. Dédé de l'Assemblée des départements de France, ils ont bien bossé, hein, tes coéquipiers corse, sur ces étapes du Tour de France. La route est magnifique. Et, ça nous promet une très belle course. Merci André, à tout à l'heure. Donc, un nouveau point. Nous sommes à 53 km de l'arrivée. Tiens, il est grand temps de parier sur la route du Tour, car évidemment,
RMC Tour de France.
Et Benji va nous rejoindre dans quelques instants pour Paris. On accueille en attendant Luc Leblanc qui lui nous a rejoint également. Il vient de faire la route de la course avec Pierre-Yves Leroux, avec Pierrick Ten, avec toute l'équipe des reporters d'RMC Sport. Salut Lucho.
Salut.
Salut. Non, on va ouvrir le micro de Lucho, Étienne. On va ouvrir le micro de Lucho. Voilà, ce sera mieux. Non, toujours pas. Bon, on y arrivera tout à l'heure. Benji est là en tous les cas. Benji est là. Bonjour Monsieur Benji.
Salut messieurs.
Alors Benji, tu vas nous donner les cotes. Est-ce qu'elles ont évolué depuis hier soir, forcément, puisque là la situation de course est bien décantée, hein.
Oui, ça a évolué notamment à cause d'un coureur. C'est la faute, on va dire, de Mark Cavendish, puisqu'il était deuxième favori hier soir. Mais alors là, forcément, avec Cavendish qui est en mauvaise posture, eh bien on retrouve Peter Sagan, large favori à 1,95. Boasson Hagen fait son apparition. C'était le prono du druide de Cyril Guimard. Il est deuxième, cote de 8. Philippe Gilbert à 14. Et puis derrière, on retrouve Greipel, Dumoulin, Albazini à 26. Alors je vous rappelle les pronos, Christophe. Toi tu avais joué Sylvain Chavanel, Cyril Guimard, Boasson Hagen, Bourgui, John Gadré, Lucho, Peter Sagan. Fred avait joué Mark Cavendish et j'avais joué Philippe Gilbert.
Ouais, bon, bah là on n'est pas bons tous, hein. Là c'est moyen. Si.
Philippe Gilbert, je pense que
Philippe Gilbert, ouais.
Benji a bien joué, hein.
Benji a bien joué.
La course n'est pas décantée. Pierre Roland n'a que 35 secondes d'avance sur le peloton et évidemment le champion du monde belge Philippe Gilbert adore le genre de difficulté qui ressemble à la côte du Salario, a confirmé tout à l'heure à 12 km de l'arrivée.
On verra ça, si Benji pouvait revenir sur Luc Leblanc qui hier a quand même raflé la mise. On rappelle les classements, Benji, parce que là Lucho qui a un petit sourire goguenard, si tu le voyais, il est ravi de son coup. Évidemment, il porte le maillot jaune, le maillot vert, le maillot à pois rouge aujourd'hui et il est tranquille, il est serein, d'une sérénité totale, hein. On rappelle les classements.
Ouais, Lucho forcément au maillot jaune, il est seul en tête avec 60€ de bénéfice. On est tous à moins 10€ évidemment. Et puis classement du maillot vert, Lucho 1000 points, tous les autres 0. Donc Lucho est très bien parti, mais attention, le tour est long.
Lucho qui a amené dans sa valise cette année, bah, il s'est fait plaisir, hein, un ensemble, une panoplie de boxers aux couleurs des maillots. Il en a un à pois, un jaune, un vert. Non, très très bien vu.
J'aimerais bien le voir dans un boxer à pois rouge.
Donc là, il a deux boxers l'un sur l'autre, le vert et le jaune. C'est ça pour le classement des paris, Fred. Il va avoir chaud un peu là.
Non, il a carrément l'habitude.
Il nous entend, Lucho? Il nous entend?
Je vous entends, mais ça marche pas.
Mais
mon micro ne marche pas. voilà, à la technique.
Ouais. Non, toujours pas. Bon, on va faire les réglages, on va éviter de les faire en direct, ce serait mieux. En tous les cas, Lucho, il vaut mieux garder le silence dans ce cas-là.
Mais moi je suis quelqu'un de très humble. Donc je garde le silence, je vous observe, je vous écoute et puis après on fera les totos dans le final.
On comptera les bouses à la fin du bal, comme dirait l'autre. Cyril, tu restes sur ton pari tout à l'heure d'hier soir plus exactement?
Bah je crois que c'est bien parti, les grands sprinters sont remontés dans l'autobus. Il y a toujours une histoire d'autobus en Corse, hein. Hier c'est celui qui est sur la ligne d'arrivée et aujourd'hui dans cette première étape, on va dire, de semi-montagne, eh bien l'autobus est également présent puisque tous les sprinters sont montés dedans, ou presque tous, sauf bien sûr Boasson Hagen et Sagan.
Mais oui, ils sont là. Sagan, qui avait été victime de la chute hier, Fred, hein, qui d'ailleurs ce matin a eu une petite phrase assez savoureuse.
Hein. Il a un surnom, hein, Peter Sagan, qui nous gratifie de ses facéties tout au long de la saison. Ce n'est pas seulement un coureur qui brille au mois de juillet pendant le Tour de France, et il a un surnom, c'est Hulk, parce qu'il est assez bestial, c'est vrai, et lorsqu'il franchit la ligne d'arrivée, il est assez démonstratif et capable de montrer les biceps, et en réaction à sa chute d'hier, il ne s'est pas plaint, contrairement à beaucoup d'autres, il a simplement, laconiquement même, déclaré « Hulk se relève toujours, il n'abandonne pas, il continue ».
Voilà, donc Hulk est en forme, mais en plus c'est vrai que l'année dernière, il portait le maillot vert comme un certain Hulk, le vrai, qui n'avait plus le maillot, puisque c'est Biscotto avait fait exploser le maillot. Allez, on est à 48 km de l'arrivée, rapidement Fred, un nouveau point et ensuite on se quitte quelques instants. Nouveau point, c'est le top course.
RMC Top Course.
Deuxième étape entre Bastia et Ajaccio, avec à 48 km de l'arrivée un homme seul en tête. Il s'agit de Pierre Roland. Pierre Roland, leader de l'équipe Europcar, qui a tenté sa chance dans la dernière difficulté du jour avant la côte du Salario que les coureurs escaladeront à 12 km de l'arrivée tout à l'heure. Pierre Roland qui compte une quinzaine de secondes seulement sur un duo composé de Blaise Cadry et Brice Feillu, mais le peloton est en train de revenir très vite. Il vient d'absorber Cadry et Feillu. Pierre Roland, 15 secondes d'avance sur le peloton.
Il va avoir du mal, notre ami Pierre Roland, à conserver son avance d'ici la ligne d'arrivée. Pour l'instant, il est en descente vers Ajaccio et ensuite la route des Sanguinaires et l'arrivée dans un décor de carte postale. On en revient sur la route du Tour dans une toute petite minute. A tout de suite.
Intégral Tour, Christophe Cessieux.
La route du Tour pour cette deuxième étape du Tour de France. 156 km au programme des coureurs aujourd'hui et un magnifique paysage entre Bastia et Ajaccio. Les coureurs qui partent de Bastia tout au nord pour rejoindre Ajaccio sur la côte occidentale de la Corse à travers évidemment les montagnes. Nous avons franchi les trois premières difficultés de la journée, notamment le col de Vizzavone classé en deuxième catégorie, et actuellement tout ce petit monde se dirige vers Ajaccio, une longue, très longue descente avant une dernière difficulté située à 12 km de l'arrivée tout à l'heure, la côte plus exactement du Salario. On va faire tout de suite un point à 43 km de l'arrivée. C'est le Top Course et c'est avec Fred.
RMC Top Course.
43 km de l'arrivée dans la descente du col de Vizzavone en direction du golfe d'Ajaccio, baigné de soleil encore une fois aujourd'hui. Un homme seul en tête, Pierre Roland, le leader de l'équipe Europcar, vainqueur d'étapes en haute montagne ces deux dernières années, et qui se lance là à l'avant de la course pour se débloquer, comme disent les coureurs. Il ne compte plus que quelques dizaines de mètres et même repris à l'instant par l'avant-garde du peloton. 43 km de l'arrivée et peloton groupé en direction de la dernière difficulté de la journée, la côte du Salario, classée à 12 km. C'est là que devrait se dessiner le scénario final de cette deuxième étape.
Très bien, Luc Leban est donc avec nous. Cyril Guimard également, retrouvant la moto RMC un petit peu plus tard. Elle est dans la descente à toute blinde, évidemment avec Marco. Ça va vite, ça déménage. Cyril, la situation est donc claire. Pierre Roland a été repris, s'est relevé tout à l'heure, il y a quelques instants, rejoint donc par l'avant-garde du peloton. Comme disait Fred, c'était pour débloquer les jambes, pour peut-être aller chercher des points pour le maillot, pour montrer qu'il est en bonne condition, tout simplement.
Bien, je pense qu'il a surtout bougé parce qu'il y avait une consigne d'équipe, hein, parce que déjà hier, on avait vu Jérôme Cousin à l'offensive. Aujourd'hui, on a vu David Vieilleux dans un premier temps, avec Vauclair qui essaye de revenir sur Veilleux pour avoir un relais. Il y avait une stratégie, c'est vrai, sur l'ensemble de l'étape, d'essayer de provoquer un coup qui puisse aller à l'arrivée. Cette stratégie a échoué, mais je pense qu'ils se consoleront avec le maillot de meilleur grimpeur ce soir, ce qui serait quand même une récompense logique compte tenu de leur combativité aujourd'hui.
C'est vrai qu'on les a beaucoup vus à l'attaque, les coureurs de la formation Europcar. Lucho, bon, on l'a vu, Pierre Roland repris maintenant. Tu as fait la route de la course, puisque oui. Nous, on est venu ici en bateau hein, aujourd'hui. aujourd'hui. C'était c'était croisière pour Fred, Cyril et moi. On a bien bronzé. D'ailleurs, le druide a pris un sacré coup de soleil. C'est pas un temps à mettre un breton dehors, vous me direz. Hein. Il y a trop de soleil. Hein. C'est pas son genre, le soleil au breton. Alors, Lucho, toi, tu es venu en voiture jusqu'ici. Oui. Parle-nous de cette côte du salario.
Donc à... Mon cher Christophe, je n'ai pas monté la côte du salario.
Ah non, toi non plus.
Je suis arrivé en bateau.
Tout aussi en bateau. Tout le monde embarque.
Ils n'ont pas voulu faire monter les bandes.
Il y en a qu'un qui l'a fait, donc, c'est moi.
Ouais. À pied.
Le druide. En courant. À pied.
Voilà.
Vous l'avez déjà dit.
Mais oui, mais c'est pas, alors, bon, si vous c'est voulez, pas bon pour ta peau. Hein.
D'ailleurs, je vais vous la décrire si vous voulez.
Vas-y, vas-y.
Alors, vous avez, quand vous arrivez donc à la sortie un petit peu de Bastia, pas très loin de l'hôtel où on a passé une très bonne nuit, Christophe, eh bien, il y a un 90 et tout de suite vous attaquez la pente.
À la sortie d'Ajaccio. Hein.
D'Ajaccio, oui, pardon. On a 150 mètres à peu près à 8%. On a un petit replat à 150 mètres, mais à, allez, on va dire 5-6%. On a un petit rond-point, on tourne légèrement sur la droite. Et là, on va attaquer une portion à plus de 12% pendant à peu près 200 mètres. Ensuite, on va revenir sur des pourcentages à 800 mètres. Et dans les 300-400 derniers mètres, on reprend des pourcentages à plus de 12%. Il y a d'ailleurs, c'est un virage à gauche et à droite, vous le verrez, il y a un magasin, une petite supérette. On rentre dans la verdure. Et là, sur les 100 derniers mètres, il n'y a plus que 5 ou 6%. Et puis derrière, il y a une belle descente sur un beau macadam, à part un endroit où on a mis des petits pavés au milieu de la route là, pour dire attention, il ne faut pas dépasser le milieu, heureusement qu'il ne pleut pas, mais derrière ça s'enfile bien. Et puis surtout la dernière ligne droite avant d'arriver sur le port, il y a énormément de pentes. Vous avez un virage à 90, pas tout à fait 90, il est un petit peu plus faible que ça, aux environs de 80, et surtout avec plein de bandes blanches. Il faudra donc être très prudent dans ce virage. Même si c'est sec, les bandes blanches, vous savez, là où on fait passer les piétons, c'est toujours plus glissant que le macadam. Et puis on commencera à être un petit peu peut-être moins lucide qu'au départ.
Et ben voilà, des bandes, ça glisse pas mal et une descente qui s'enfile. Je crois que voilà, tout est dit sur ce dernier pic de la journée.
C'est ce dernier pic de la journée. Alors d'ailleurs, si vous voulez voir des photos du druide en croisière ce matin, allez sur Twitter. Sur le hashtag RMC Tour, vous verrez que c'était avant le coup de soleil, ça, hein, les petites photos.
Christophe, je ne vous ai pas donné mon autorisation pour publier mes photos ou des photos de moi sur votre site, là où je ne sais quoi, que vous êtes en train de découvrir.
Voilà, mon cher Cyril.
Ah non,
vous refusez le progrès. Hein,
c'est pas du progrès. Vous prenez alors que je suis tranquillement vacances en Corse. J'ai quand même le droit à des vacances.
J'ai peut-être 20 ans de moins que Cyril, mais je refuse le progrès. Ce progrès-là, je le refuse parce que. Twitter et compagnie, c'est pas mon truc. Hein.
Bon, en tous les cas, si vous voulez converser avec nous, n'hésitez pas, hashtag RMC Tour. Et puis également le site rmcsport.fr. Si vous écoutez RMC sur le petit player, vous pouvez nous envoyer des messages, les lire, si ce sont des bons messages, évidemment. Très bien, un nouveau point sur la course. Fred, top course, on va faire un petit top course. On est à moins de 40 km de l'arrivée maintenant. Et la situation est on ne peut plus claire.
RMC, top course.
Oui, 38 km de l'arrivée avant Ajaccio, donc, et le peloton des favoris, hein, notons-le et précisons-le, le peloton des favoris est groupé avec un maillot jaune et une pléthore de sprinteurs qui naviguent à plus de 6 minutes, on est en bas de la descente du col de Vidzavon, et le groupe des favoris est en file indienne ou presque, car les équipiers des punchers sont à l'avant du peloton, les Cannondale de Sagan, les BMC de Philippe Gilbert, mais aussi les Sky avec un Christopher Froome constamment dans les 8 premières positions.
Très bien, 16h36, vous êtes sur RMC. Le peloton du Tour de France se dirige donc maintenant vers Ajaccio. Une longue descente, et puis on vous le disait tout à l'heure, après Ajaccio, il y aura donc cette dernière difficulté, la côte du Salario. On va accueillir Pierre-Yves Leroux qui vient d'arriver avec Luc Leblanc, lui aussi a pris le bateau. Et comme tout bon breton qui prend le bateau, il a lui aussi des coups de soleil. Salut Pierre-Yves.
Ouais, mais il n'y avait pas des creux de 4 ou 5 mètres comme au Sable d'Olonne à l'arrivée du Vendée Globe. Hein. C'était plus tranquille.
Ah oui, c'est la Méditerranée.
Il y avait des méduses, par contre.
N'empêche qu'on a gagné un quart d'heure.
Ah oui, mais tant
un quart d'heure pour venir.
C'est très bien. Pierre-Yves, tu étais ce matin au départ. Alors c'est vrai qu'on se souvient qu'hier, il y a quand même eu un mouvement de grogne du peloton, que tout le monde était un petit peu très colère. On a entendu la réaction de Marc Madiot, qu'on pourrait écouter d'ailleurs. Marc Madiot, je sais pas si c'est prêt en régie à Paris. Marc Madiot qui était évidemment très fâché après la direction de course et ses changements de lieu d'arrivée dans les dernières minutes de l'étape d'hier, puisqu'on s'en souvient avec ce bus qui était bloqué sur l'arche d'arrivée. Dans un premier temps, on a décidé de juger l'arrivée 3 km avant l'arrivée initiale, et puis finalement on a réussi à débloquer le bus et on a décidé de juger l'arrivée sur son lieu initial. Du coup, il y a eu beaucoup de grogne, beaucoup d'énervement dans le peloton, des chutes, et tout ça a énervé tout le monde, les coureurs notamment, et le directeur sportif Marc Madiot. Tenez, c'était le coup de gueule, le premier grand coup de gueule de ce Tour de France, et ça valait le coup d'être réécouté. On l'écoute, Marc Madiot.
Qu'ils prennent la décision de mettre la ligne d'arrivée à 3 km, pas de problème. Mais 2 km ou 3 km plus loin, on nous dit pas on fait sur la ligne d'arrivée. C'est n'importe quoi. Le président du jury, nous les coureurs, nous les équipes, quand on fait des conneries, on nous met des amendes. Et ben lui, il en prend une grosse. Il doit en prendre une grosse. Mais c'est le président du jury qui est le patron de la course. C'est pas l'organisateur. L'organisateur, il dit il y a un souci sur la ligne d'arrivée. On l'a vu sur les écrans. Il n'y a pas de problème. On nous dit on fait l'arrivée à 3 km. Pas de problème non plus. On fait l'arrivée à 3 bornes. Mais 3 km plus loin, on nous dit finalement elle est sur la ligne d'arrivée. C'est ridicule. Le président du jury, ridicule. Ridicule.
Voilà, très très fâché, très très colère. Ouais, il nous habitue à ses coups de gueule ou à ses coups d'enthousiasme. On se souvient l'année dernière, lors de la victoire de Thibaut Pinot, Marc, complètement à l'extérieur de sa voiture, en train de taper sur le capot et sur la portière. Bon, c'est un vrai personnage, on l'adore comme ça, même si évidemment, il ne s'est pas fait que des amis hier. Alors, ce matin, Pierre-Yves, on a eu des rumeurs comme quoi le peloton, les coureurs du peloton, allaient exprimer un mouvement de grogne, de mécontentement, en décidant de mettre pied à terre. Finalement, il n'en a rien été.
On parlait de la Méditerranée, de l'eau. Il y avait vraiment du flottement ce matin au village départ, avec un Jean-François Pécheux, directeur de l'épreuve, qui passait de bus en bus pour essayer de comprendre d'où venait la rumeur. Il savait que quelque chose était en train de se négocier, de se passer, qu'il y avait des échanges entre les coureurs. Donc on l'a vu aller dans un certain nombre de bus. À un moment, il a eu l'impression que ça venait de chez Sky. Donc il est monté dans le bus Sky pendant quelques minutes. Il a discuté avec Nicolas Portal, l'un des directeurs sportifs, et avec les autres représentants de cette équipe Sky. Et puis finalement, en redescendant, je lui ai demandé si voilà, ils avaient trouvé un terrain d'entente, s'il y avait vraiment quelque chose qui se passait. Et il m'a dit, mais attendez, il n'y a rien, c'était juste une visite de courtoisie. Et il est reparti dans un autre bus. Et effectivement, finalement, après, Jérôme Pinot, Yvon Sanquer ont aussi évoqué des possibilités de position franche, d'actes vraiment pris par les coureurs, notamment au kilomètre zéro éventuellement. Et puis, il n'en a rien été. Donc, on y reviendra peut-être avec ces anciens coureurs, ceux qui ont un peu d'âge, un peu de bouteille dans ce peloton, pour savoir ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a eu un terrain d'entente finalement, ouais, et que l'organisation a réussi à dégonfler un petit peu le ballon.
Ça n'aurait pas été une première. On se souvient de mouvements de grogne du peloton lors de précédents Tours de France, en 98 notamment, Luc. Hein. Tu étais dans le peloton, c'est vrai que c'était un tour assez particulier.
Je me souviens en 94, je crois que c'était, il y avait un mouvement de grève au départ de l'étape de Pau concernant les casques.
Mm-hmm. Je crois. Vous êtes syndiqué, vous, les coureurs cyclistes, ou non?
Et aussi Zimmermann qui n'avait pas pris l'avion, je crois, et qui devait être mis carrément hors course. Oui. On avait manifesté pour les deux, d'ailleurs. Ouais.
Et en 98, il y a eu un vrai mouvement de grogne au départ d'une étape. Lucho, tu étais leader dans ce coup-là, sur ce coup-là,
non? Pas du tout. Moi.
Non, c'est Jalabert qui était leader.
Oui, non, moi,
à Aix-les-Bains.
Et Biarnoris aussi.
À Aix-les-Bains, c'est
je crois bien.
Peut-être.
Oui, tu as raison, oui. Aix-les-Bains.
Et puis, Cyril, pour revenir encore un peu plus en arrière, dans les années 80 aussi, les coureurs s'étaient exprimés et avaient exprimé leur mécontentement, hein, avec notamment Bernard Hinault en tête.
Oui, Bernard Hinault, et on revoit encore les images des coureurs qui descendent de vélo à 500 mètres de la ligne. Bernard Hinault avec son maillot de champion de France, parce qu'il était champion de France, à côté de Gerben Karsten et de Yann Rass et de Gerrit Knetman, entre autres. Oui, alors la grogne, elle venait surtout du fait des horaires, puisqu'il y avait à l'époque encore des demi-étapes, voire des fois trois étapes le même jour, pourquoi pas huit. Et donc on s'était levé quand même, parce qu'on couchait dans les lycées à l'époque, il faut pas dans les quatre étoiles.
Ah oui.
Oui, dans le lycée là-bas, le lycée agricole. col. C'était pas à Pau d'ailleurs, c'était à Luchon.
Les coureurs, enfin les équipes étaient logées dans des lycées, dans des dortoirs en fait.
Ouais, oui, tout à fait. Les directeurs sportifs aussi, entre autres. Hein.
Ah ouais.
Oui, j'y étais.
Il
avait fallu se lever aux environs de 5 heures, faire un petit transfert en voiture pour aller prendre le départ de la première demi-étape qui arrivait donc à Villeneuve-d'Agen. Et puis il y avait une étape l'après-midi. Alors les coureurs se sont, dès le départ, d'ailleurs au départ de l'étape, d'un seul coup, les coureurs ont fait savoir que l'étape n'aurait pas lieu, ils iraient jusqu'à l'arrivée, mais qu'ils descendraient de vélo. D'accord. Et c'était M. Jacques Godet qui était directeur du Tour de France à cette époque.
Ouh là là, ça rigolait pas avec Jacques Godet.
Alors
hein.
M. Jacques Godet paraissait très fâché, d'ailleurs je crois qu'il l'était. Il a commencé à faire ce qu'a fait Jean-François Pécheux ce matin. Il est descendu à la hauteur des directeurs sportifs pour leur dire qu'est-ce qui se passe, c'est inadmissible, dans le Tour de France on fait pas ça. Enfin bon, le discours de quelqu'un qui a envie que les choses se passent non pas bien, mais qu'elles soient bien pour le Tour de France et pour l'image du Tour. Et je me souviens, il était venu à ma voiture en me demandant « Monsieur Guimard, vous êtes au courant, pardon ?» que les coureurs, ils n'ont pas envie de rouler aujourd'hui, c'est pas moi qui vais les forcer. D'ailleurs, si vous avez bien remarqué, je finis ma nuit. Donc il est reparti et puis effectivement les coureurs à 200-250 mètres de l'arrivée sont descendus et ont passé. Et depuis, les choses ont quand même avancé puisqu'il n'y a plus de demi-étape, ce qui est quand même formidable.
Je rectifie, c'est pas 94, c'est 91, c'était l'étape de Pau-Val-Louron.
Très bien, très bien. Pour revenir donc sur ce mouvement de grogne et surtout sur les conséquences des chutes d'hier, on était très inquiets concernant quelques coureurs et notamment Alberto Contador. Il a pu prendre finalement le départ sans souci.
Il a pu prendre le départ comme tout le monde puisqu'il y avait bien 198 coureurs au départ ce matin. Tony Martin, c'est pour lui aussi qu'on était très inquiet hier. On craignait même une fracture, éventuellement une clavicule cassée, des contusions, mais il a pu reprendre le départ. Et puis Peter Sagan aussi, on a pris de ses nouvelles. Voilà, une petite nuit à peu près bonne quand même pour Peter Sagan. Pas trop inquiet. Les coureurs étaient plutôt rassurés ce matin. C'est peut-être aussi ce qui a permis que les choses se calment, c'est plus facilement. Ouais. Mais Alberto Contador avec quelques pansements qu'on a pu voir ce matin, Peter Sagan également, mais tout le monde est sur le vélo.
Parfait.
Oui, et comment Tony Martin, c'est actuellement en compagnie de son sprinter à l'arrière. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez qui est le virtuel leader en ce moment de la course?
Alors là,
bien, ce serait non pas Kittel, non pas Christophe le deuxième, non pas Danny Van Poppel le troisième.
Ils sont tous largués ceux-là.
Ce serait David Millar très probablement.
David Millar, puisque les trois premiers sont rejetés à l'arrière, de même que Dumoulin. Donc c'est David Millar et derrière vous avez Matteo Trentin. Et comme c'est au point que ça se départagera si l'ensemble du peloton arrive, ce sera l'addition des places.
Donc c'est-à-dire que si l'arrivée s'achève par un sprint, c'est David Millar qui...
Ça dépendra de l'addition des places.
Des coureurs qui sont dans les 30 premiers aujourd'hui.
Donc ça veut dire que c'est encore un sprinter qui peut être en jaune ce soir.
Il n'y en a plus beaucoup. Hein, Rojas,
mais si Sagan est un sprinter.
Non, Peter Sagan est très loin. Parce qu'il est à la place où il a fini. Il ne peut pas prendre le maillot.
D'accord.
Mais ceux qui peuvent prendre le maillot sous réserve qu'ils sont présents là, ce serait Millar, Matteo Trentin, Gregory Anderson, mais je pense qu'il n'est pas là. Jorgen Ruelands, Rojas, Bokman, Van Marck, pourquoi pas Julien Simon.
Ça serait mieux. Autrement,
Julien Simon, là je vote tout de suite. Hein. C'est un garçon qui sort de Plélan-le-Grand, c'est juste à côté de Guerre, à côté d'où j'habite.
Ah d'accord.
Ah oui, là, d'un seul coup la fibre bretonne repart.
Vous allez le reconnaître, il va être tout rouge ce soir, comme tous les Bretons ici en Corse.
Ah, oui, alors il y a eu tout à l'heure une crevaison. Hein, une crevaison de Jean-Christophe Perrault.
Oui, effectivement.
Qui est revenu et qui vient de rechanger, je crois. Qui vient de rechanger de roue.
Bon.
Dans la descente, les voitures n'étaient pas là.
Est-ce qu'il avait réussi à regagner l'arrière du peloton?
Il avait été dépanné par un équipier puisque les voitures de directeur sportif étaient beaucoup plus loin avec les coureurs qui étaient lâchés. Donc ils tentaient de revenir.
30 km de l'arrivée, nouveau top course avant de se quitter quelques instants. Fred.
RMC Top Course.
Il reste une difficulté, elle sera placée à 12 km de l'arrivée, une arrivée paradisiaque en face des îles sanguinaires, au loin, dans le golfe. golfe d'Ajaccio. 30 km de l'arrivée, une difficulté, la côte du Salario à 12 km de la ligne, et le peloton est scindé en deux, mais les deux parties évoluent à 7 minutes 30 de différence. D'un côté, les favoris pour le classement général et donc pour l'étape du jour, et de l'autre, les sprinteurs qui sont pour la plupart dans les choux aujourd'hui. Il y a un peloton de 120-130 unités avec les principaux favoris. Ils évoluent à 30 km de l'arrivée. La fin de course s'annonce particulièrement tendue.
Et particulièrement intéressante. On va la suivre dans quelques instants sur RMC. Le final de cette deuxième étape dans l'Intégral Tour, évidemment. À tout de suite.
Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Et le programme de cette deuxième journée du Tour de France nous mène donc de Bastia à Ajaccio avec les magnifiques paysages corses. Nous avons quitté la côte orientale, Bastia, nous avons traversé les montagnes. Place désormais à Ajaccio, le magnifique golfe d'Ajaccio que les coureurs vont découvrir dans quelques minutes. Nous avons retrouvé la moto RMC avec évidemment Georges Quirino qui se dirige vers la Grande Bleue qu'il avait quittée tout à l'heure pour les montagnes. Ça y est, elle est en vue, la Grande Bleue, une nouvelle fois, Georges.
Bonjour, bonjour, exactement. Oui, on se rapproche de la mer, ça se sent. On a désormais fini, on a terminé avec cette descente du col de Vidzavon. Retour sur un profil plat pour le parcours. Et alors que nous passons en ce moment même sur la banderole indiquant les 25 derniers kilomètres, on peut distinguer derrière nous donc ce peloton qui est groupé et qui est emmené à l'instant même par les coureurs au casque vert fluo. Ce sont les coureurs de la formation Cannondale qui sont en train de protéger Peter Sagan, notamment leur coureur pour le général, pour le sprint tout à l'heure. Peter Sagan qui était tombé hier et qui va mieux, c'est ce que nous a dit ce matin son directeur sportif. Mais voilà, on sent que maintenant on commence à s'observer. Là, le peloton derrière nous qui prend toute la largeur de la route, on est sur une deux voies désormais pour les hommes de tête qui passent. Voilà, à l'instant même, le peloton sous la banderole indiquant les 25 derniers kilomètres. On est sur du plat désormais avant d'attaquer la dernière difficulté de la journée.
Alors on a vu hier que la première étape sur les routes corses avait été un formidable succès populaire. Est-ce qu'il en est de même aujourd'hui, Georges, notamment dans la montagne tout à l'heure? Est-ce qu'il y avait beaucoup de spectateurs sur le bord des routes?
Oui. Surtout tout à l'heure au sommet du col de Vidzamon et surtout du col de la Serra, où on a vu tout le long de l'ascension énormément de supporters sur le bord de la route. On a pu mesurer véritablement la ferveur corse pour ce Tour de France. Énormément de drapeaux corse. On a même vu des fumigènes de temps en temps pour encourager les coureurs. Mais lorsque l'on est arrivé au sommet, c'est vrai qu'on s'est véritablement cru dans une étape de montagne, dans une étape pyrénéenne, une étape des Alpes. Donc véritablement ici la fête du Tour est totale. C'est vrai que là, en rentrant dans ces grands axes dans Ajaccio, il y a toujours autant de spectateurs, mais beaucoup moins que tout à l'heure lors de l'arrivée en montagne. Mais voilà, on a quand même pu voir à quel point le Tour est populaire également ici sur l'île de Beauté, et on a pu voir beaucoup de pancartes avec des inscriptions notamment le Tour top la Corse. Voilà, c'est à l'utilisation du mot dopé, mais de manière positive pour la Corse.
Exactement. Ben, c'est vrai que la Corse comptait beaucoup sur ce Tour de France pour montrer une image positive, pour montrer que c'est un des plus beaux endroits au monde. Hein. Je ne dis pas seulement un plus beau endroit de France, c'est tout simplement un des plus beaux endroits au monde. Et c'est vrai que depuis le début, Lucho, je ne sais pas si tu as ressenti la même chose que moi ou que nous tous, on sent vraiment la ferveur. Les Corses sont ravis d'accueillir le Tour de France.
Ils sont enthousiastes.
Ils ont la banane. Dès qu'ils nous en parlent, ils sont ravis de montrer leur pays. De montrer
oui, tout le monde pensait, oui, en Corse, il n'y aura pas beaucoup de monde, c'est le grand départ du Tour, mais c'est une petite île. En fin de compte, il y a la ferveur. Tous les Corses sont sortis, que ce soit les hommes, les femmes, les enfants. Il y a vraiment une ferveur extraordinaire, et on peut remercier les Corses de nous accueillir comme ils l'ont fait depuis quelques jours, parce que à chaque endroit où on était, même pour manger le soir ou le midi, mais vraiment, non, mais attends, je veux dire, on nous a reçus royalement.
Si vous voulez que vous fasse des compliments, vous lui filez un sandwich, et là vous êtes tranquille pendant une demi-heure à l'antenne, il va être.
C'est vrai que l'enthousiasme est authentique à la manière des Corses. Par contre, en revanche, on ne peut pas nier qu'il y a moins de monde sur le bord des routes, mais c'est normal.
C'est normal.
La densité de population est bien moindre sur l'île que sur le continent.
Ça dépend à quelle période de l'année, en plein mois d'août.
Oui, mais là, fin juin, effectivement, il y a moins de monde, mais l'enthousiasme ne se dément pas. Belle attitude. Petite question à Georges, question bête, probablement, mais on nous l'a la pose tellement cette question, et c'était tellement la crainte des suiveurs du Tour avant le départ. Y a-t-il des manifestations, disons-le, nationalistes de la part des Corses sur le bord de la route? Est-ce qu'il y a des drapeaux, des pancartes revendiquant une vraie appartenance et avec véhémence parfois? Est-ce qu'il y a ce genre de scène sur le bord de la route? Est-ce qu'on profite de la fenêtre médiatique du Tour pour ce type de revendication?
Alors, on n'a pas vu de scène hostile, on va dire, sur la route, et comme les organisateurs pouvaient le croire, le craindre, que vraiment on bordure la route avec des manifestants. On a vu des banderoles nombreuses ici et là, notamment sur les ponts, avec écrit Libera Corsa, ou la Corse ne fait pas partie de la France en anglais. Voilà, c'est assez ponctuel. On ne va pas dire qu'on l'a vu sur toute la longueur de la route. On l'a vu de temps en temps, comme on a pu le voir parfois même lorsque l'on passe dans les Pyrénées du côté du Pays Basque. En tous les cas, on n'a pas senti d'hostilité sur le bord de la route, si c'est ce que tu veux savoir, Fred. On a vraiment senti que c'était une manifestation. Voilà, on veut le montrer, vous l'avez vu, mais on ne va pas perturber la course. C'est comme ça qu'on l'a ressenti sur la route.
Et c'est vrai qu'au Pays Basque, c'est parfois même beaucoup plus virulent, donc on confirme. Oui. On est vraiment... En tout cas, le Tour de France est le bienvenu sur les routes corses, sur les magnifiques routes corses.
Les magnifiques routes corses, évidemment, avec cette deuxième étape. Et les routes corses, vous allez, si vous ne les connaissez pas, les découvrir encore un peu mieux demain, avec ce qui est sans doute la plus belle étape de ce passage en Corse.
D'ailleurs,
entre
Christophe,
Ajaccio et Calvi. Alors là, c'est tout simplement sublime. La remontée le long de Calvi, le long de la côte vers Calvi, avec les calanques de Piana, avec Porto. On a des
étoiles. C'est le cœur qui parle, Christophe.
Ah, ouais, non,
là.
Mais moi, c'est un des plus beaux endroits.
Il va venir habiter ici.
Ah, mais moi, j'adore la Corse. Ah ouais, j'ai passé toutes mes vacances ici.
D'ailleurs, dès l'année prochaine, il va y avoir le Tour de Corse professionnel. Avant, il était amateur année, et il va devenir professionnel l'année prochaine.
Parce que
l'organisateur, c'est
Dominique Bose. C'est la première fois que le Tour passe en Corse, Cyril. Par le passé, il y avait ce Tour de Corse, et il y avait beaucoup de... Tous les cyclistes professionnels venaient tous les ans en Corse. Hein.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, de très belles courses sur des parcours même peut-être plus difficiles que ceux que l'on emprunte depuis deux jours. Peut-être un peu moins, que parce que demain ça va encore être sérieux, voire peut-être même plus, mais surtout on utilisait beaucoup plus de petites routes. Et vous savez que parmi les vainqueurs, vous avez quand même Bernard Hinault et Gilbert Dicto Lassalle. Et pour la petite histoire, si ça vous dérange pas que de temps en temps je raconte quelques petites
histoires. Mais non, mais on adore les histoires du druide.
Et bien, c'est sur ce Tour de Corse que j'ai repéré Laurent Fignon, et que le soir de la dernière étape,
c'est incroyable ça.
Avant de reprendre l'avion dans l'hôtel où il était parti prendre sa douche, je suis arrivé en courant et frappé à la porte. J'ai dit: Monsieur Fignon, je voudrais vous voir. Voilà.
Ah oui.
Donc une semaine après, nous nous retrouvions à Paris, et nous nous mettions d'accord pour qu'il soit professionnel dès l'année suivante. Et à ce moment-là, il appelle, mais ça c'est la conséquence, en même temps il appelle son copain Pascal Jules, et il dit à Pascal Jules: bien, écoute, j'ai vu Guimard, j'ai signé mon contrat. Et Pascal Jules lui fait: mais moi c'est déjà fait.
Ce que tu n'as pas fait avec moi, rappelle-toi, en 80,
oui, mais
en 86.
Ils étaient plus vieux que toi, t'étais encore un minot.
Monsieur Leblanc, je voudrais dans mon équipe.
Prêt.
Et au championnat du monde à Colorado Springs en 86, tu m'as dit:
prêt.
Luc, tu vas attendre un an. Bah, j'ai dit: alors non, moi j'ai plus rien à faire chez les amateurs.
Mais si, t'avais encore beaucoup de choses à faire.
Non, parce que j'ai gagné,
Découvrir ton limousin.
Gagné les étapes autour d'Armorique et tout.
Allez,
et
allez,
tu m'as
allez.
Pas fait confiance.
Ouais, bah, il a, je sais pas s'il avait pas eu raison finalement de pas te faire confiance. Mais on rigole, on le chante, notre ami Lucho.
Pascal Jules et Laurent Fignon, auxquels on pense bien fort.
Exactement. Et puis, si vous voulez d'ailleurs redécouvrir la vie de Laurent Fignon, il y a son épouse qui a écrit un très beau livre sur ce grand champion qui était Laurent Fignon. Un point rapidement sur la course avant les infos 17h.
Point très clair, 19 km avant l'arrivée. Il reste une difficulté, la côte du Salario, longue d'un kilomètre mais très raide. À 12 km de l'arrivée, elle sera située, cette ultime difficulté. Le peloton des favoris est groupé. Les sprinteurs, eux, naviguent après de 9 minutes. On surveillera dans les kilomètres qui viennent l'attitude du champion du monde Philippe Gilbert, de Peter Sagan ou encore du champion de France Arthur Vichot, ou même de Thomas Vauclair, pourquoi pas.
Très bien, on se retrouve dans quelques instants pour le final de cette deuxième étape. Ajaccio, la ville natale de Napoléon, un certain Napoléon Bonaparte. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, en tous les cas, il est là, bien présent. Et le peloton du Tour de France est également là. On se retrouve dans 2 minutes. À tout de suite. Et oui, et toute l'équipe évidemment, Denis, car c'est la grande bagarre. Nous sommes à 14 km de l'arrivée. Fred, on va vivre cette dernière difficulté de la journée, la côte de Salario, avec classée en troisième catégorie. Et c'est sans doute là que la victoire finale dans cette deuxième étape va se jouer. La côte qui est, on est au pied de cette côte de Salario.
Oui, troisième catégorie parce qu'elle est certes courte, un seul kilomètre, mais avec des passages à 12%, et elle pourrait décider de l'identité du vainqueur de cette deuxième étape du Tour de France. Tout le monde essaye de se placer aux avant-postes à un petit kilomètre du début de l'ascension. Ce sont désormais les Sky qui emmènent Christopher Froome ou Richie Porte et Edvald Boasson-Hagen dans les meilleures dispositions. On a vu les Radio Shack pour protéger Andy Schleck, les Movistar pour Valverde, les Sojasun, tiens, l'équipe française pour ces deux cartes, Julien Simon et Jonathan Hiver. Les punchers devraient être à la fête aujourd'hui. On va également surveiller le maillot irisé de champion du monde de Philippe Gilbert. Nous sommes dans les rues d'Ajaccio au pied de la dernière difficulté de la journée.
On va la vivre, cette dernière difficulté de la journée, car évidemment c'est très important en vue du sprint final tout à l'heure. La plupart des grands favoris sont présents. Cyril, pour l'instant tout le monde s'observe. La bagarre n'est pas encore commencée, mais tu nous le disais tout à l'heure, c'est une côte très très rude, hein, très très rude, hein, cette côte de Salario.
Oui, oui, et ça se bat comme pratiquement on est les coureurs, on a l'impression qu'on est à 500 mètres de la ligne d'arrivée, ça frotte de la même façon, alors que là on va prendre le premier virage à 90 degrés et tout de suite on va attaquer l'ascension. Est-ce que tout le monde va passer? Oui, tout le monde est passé sans encombre, et maintenant eh bien les premiers attaquent, les premières rampes à plus de 8%.
Voilà, à plus de 8%, c'est toujours le train Sky qui emmène tout cela, mais une attaque sur le côté droit de la route, Fred.
Oui, avec probablement Thomas De Gendt, à moins que ce soit Marco Marcato, un coureur de l'équipe Vacances Soleil, et qui a jailli en contre-attaque. Cyril Gauthier, le petit breton de l'équipe Europcar. On est à 900 mètres du sommet, 900 mètres de la dernière difficulté, du sommet de la dernière difficulté de la journée. Et effectivement, Cyril Gauthier vient de se joindre à un puncher de l'équipe Vacances Soleil. Derrière, on ne réagit pas. Les Movistar de Valverde et les Sky sont à l'avant du peloton, mais pour l'instant, eh bien, on n'aperçoit pas le maillot de champion du monde attaqué. Il est là, mais il ne bouge pas une oreille, comme disent les coureurs. On attend également, pourquoi pas, Sylvain Chavanel ou le champion de France, Arthur Vichot. Pour l'instant, c'est bien Cyril Gauthier, le petit gabarit de l'équipe Europcar, qui accompagne un coureur de l'équipe Vacances Soleil. Il semble que ce soit Juan Antonio Flecha, l'Espagnol. L'avant du peloton est emmené par les coureurs de Saxo Tinkoff, les coéquipiers de Contador, avec l'Irlandais
victime d'une crevaison.
L'Irlandais Nicolas Roche à l'avant du peloton, ah ouais. Et Pierre Roland qui repart bien dépanné par un équipier. Une crevaison, semble-t-il, ah ouais, pour Pierre Roland.
Pierre Roland qui tout à l'heure.
C'est peut-être Beauclerc qui l'a dépanné d'ailleurs.
Ah oui, c'est incroyable. Pas sûr, on va vérifier pas. Ça. En tous les cas, Pierre Roland qui était à l'attaque tout à l'heure dans l'avant-dernière difficulté de la journée, le col de Vitzavon, qui a donc été victime d'une crevaison. Il revêtira probablement tout à l'heure le maillot de meilleur grimpeur, ce célèbre maillot à pois rouge. En tous les cas, l'un de ses coéquipiers est devant, Cyril Gauthier. Beaucoup, beaucoup de monde, Fred, sur les côtés de la route pour encourager les coureurs du peloton. 10 secondes d'avance pour Gauthier et son compagnon d'échappée. Il va franchir dans quelques instants le passage au col avant la redescente et la route des Sanguinaires qui mènera ici à l'arrivée.
Oui, passage en haut de la côte pour Cyril Gauthier. Dans quelques instants, un breton particulièrement bien taillé pour ce genre de difficultés, tout petit bien sûr, mais un vrai coureur au profil de puncher, Cyril Gauthier, vainqueur d'une course majeure dans sa carrière, la route Adélie, qui avait été champion d'Europe Espoir, mais il aura du mal à faire la différence. Cyril Gauthier, un peu limité physiquement pour faire le trou, car à l'avant du peloton, les Sky sont à la manœuvre comme qui rigole. Les Sky avec Richie Porte qui emmène dans sa roue Christopher Froome. Ces coureurs de l'équipe Sky sont capables de maîtriser la course sur des échappées au long cours en haute montagne et sur des difficultés courtes d'un kilomètre. Et bien c'est pareil, Cyril Gauthier est seul en tête avec 5 petites secondes d'avance sur l'avant-garde du peloton.
À noter un très bon coup de pédale de Cadalet Vance, qui est en 3ème position du peloton. On n'en a pas beaucoup parlé, mais pour l'instant très bon placement de Cadalet Vance qui risque d'aborder la descente en tête.
Et Froome qui vient de sortir,
l'équipe Sky.
Chris Froome, le grand favori de ce Tour de France, qui vient de sortir du peloton et qui tente de revenir maintenant sur Cyril Gauthier. Il n'est plus qu'à quelques secondes derrière le coureur français de la formation Europcar, Chris Froome, qui veut marquer les esprits, Fred.
Un Impressionnant, Christopher Froome. On se demandait pourquoi Richie Porte tenait à portée de fusil Cyril Gauthier. Eh bien, c'était pour servir de dernier étage de la fusée Sky. On est à la deuxième étape seulement du Tour de France. Doit-on vous le rappeler? Dernière difficulté du jour à 12 km de l'arrivée. Christopher Froome, deuxième du Tour de France l'an passé, derrière son compatriote et coéquipier Bradley Wiggins, est sorti au sommet. On a basculé dans la descente. Cyril Gauthier, le breton de l'équipe Europe Car, est toujours devant, mais avec une dizaine de mètres seulement d'avance sur Christopher Froome. Froome qui, lui, compte une trentaine de mètres sur le peloton. Il s'est testé et les jambes répondent chez le Britannique d'origine kényane.
Voilà qui va faire mal au mental et au moral des adversaires de Chris Froome, mais évidemment au premier, on pense à Alberto Contador qui lui a été victime d'une chute hier. Alberto Contador qui n'a pas réagi sur l'attaque de Chris Froome. Je ne sais pas où il était placé dans le peloton. Cadel Evans non plus n'a pas réagi. Ils ont laissé partir Chris Froome qui veut marquer les esprits, Cyril. Hein.
Oui, et puis il est important de noter que cette descente est très technique et surtout dans la partie finale, et que lorsqu'on va rattaquer le bord de mer, il va y avoir des cassures de partout, et qui dit qu'il n'y aura pas des leaders du classement général, enfin des protagonismes de ce Tour de France qui risquent d'être piégés sur les 10 derniers kilomètres.
Alors qu'on a vu la Cyril Gauthier se faire une grosse frayeur,
il a failli se manger le trottoir, hein, Cyril Gauthier, mais c'est un très très bon descendeur, et d'ailleurs il était pratiquement en train de se faire rattraper au sommet, et là il a refait la différence dans la descente, et je peux vous dire
le dernier virage dont je parlais tout à l'heure.
Voilà, 10 km de l'arrivée très précisément.
RMC, les 10 derniers kilomètres.
Fred, avec donc un Français en tête, Cyril Gauthier, et le grand leader, le grand favori de ce Tour de France, qui est parti à sa chasse, Chris Froome.
Christopher Froome qui revient sur le bord de mer à la sortie d'Ajaccio bientôt, et qui voit revenir dans ses rétroviseurs l'avant-garde du peloton. Tout est en train de rentrer dans l'ordre, excepté donc la présence de Cyril Gauthier, le jeune et petit grimpeur puncher de la formation Europcar. Décidément, on les voit tous azimuts, les coureurs de Jean-René Bernodeau. Rappelons que ce sponsor, partenaire de l'équipe vendéenne depuis 3 ans, devrait se retirer à la fin de la saison, et on cherche un repreneur du côté de l'équipe vendéenne. Belle façon de se mettre en évidence. Christopher Froome, à l'instant, à 9 km de l'arrivée, est rattrapé par l'avant-garde du peloton, un peloton emmené par l'équipier d'Alberto Contador, Nicolas Roche, l'Irlandais.
Nicolas Roche, qui est le lieutenant numéro 1 d'Alberto Contador dans ce Tour de France, qui a fait l'effort pour aller chercher Chris Froome. On n'a pas vu Contador, on n'a pas vu Evans. Ils ne se sont pas énervés.
Evans est en 3e position.
Je disais qu'il était en 3e position dans la montée. Donc,
Ah oui, là, il y a un fou furieux.
Qui court lancé
devant la meute des sangliers, comme tu disais hier.
C'est un spectateur qui a hésité à traverser devant les coureurs, devant Michał Kwiatkowski, le champion de Pologne, coéquipier de Sylvain Chavanel et Mark Cavendish, devant un coureur de l'équipe Cannondale également. Finalement, il a fait demi-tour, mais il a fait peur à tout le monde, et il s'est fait peur à lui-même.
Oui, parce qu'il a vu arriver de plein pot les coureurs du peloton. Cyril Gauthier est donc seul en tête. Nous sommes à 8 km 400 de l'arrivée. L'écart est infime entre Cyril Gauthier et l'avant-garde du peloton, mais il peut peut-être profiter du fait qu'on s'observe en tête de peloton maintenant, Cyril, ou alors les équipes de sprinteurs, enfin ceux qui restent, vont se mettre en place maintenant.
Oui, ça va se mettre en place. Hein. Il n'y a qu'une centaine de mètres. En plus, Cyril Gauthier a fait un effort maximal dans l'ascension. Donc il doit avoir les cuisses qui doivent commencer à brûler, et puis il y a encore bien sûr les sprinters, ceux qui peuvent et qui ont encore quelques équipiers, mais ce que je pense aussi, c'est qu'il va y avoir sur ces derniers kilomètres également de nombreuses attaques, et c'est le cas en ce moment.
Voilà, c'est le cas en ce moment. Nous sommes à 8 km de l'arrivée, ça tente de partir du peloton dans tous les sens, Fred, hein.
Oui, avec des accélérations côté Astana, avec également Nicolas Roche qui voulait relancer l'allure tout à l'heure quand il est rentré sur Christopher Froome. On a vu également ce Polonais un peu surprise, révélation du début de saison, Kwiatkowski, qui est un leader de rechange chez Omega Pharma Quickstep, si Sylvain Chavanel ne parvient pas, et ce fut le cas dans la dernière difficulté de la journée, ne parvient pas à sortir de lui-même.
Ça revient, l'ancien
champion de France Sylvain Chavanel, qu'on attendait pourquoi pas, il est en 3e position désormais, Sylvain Chavanel, et il participe au retour du peloton à l'instant à 7 km de l'arrivée sur l'homme de tête Cyril Gauthier, bientôt absorbé à la sortie d'Ajaccio en direction des îles Sanguinaires.
Voilà, Cyril Gauthier qui continue d'essayer d'accroître son avance, mais c'est terminé pour Cyril Gauthier. Et un contre actuellement mené par un coureur de la formation Mega Pharma.
C'est pas n'importe lequel, c'est Sylvain Chavanel, vélo orange à la couleur de son véhicule, un peu tape à l'œil, son véhicule à 4 roues. C'est le cadeau d'anniversaire de ses mécanos aujourd'hui pour Sylvain Chavanel, un tout nouveau vélo assorti à ses chaussures entre orange et rose. Sylvain Chavanel qu'on attendait peut-être dans la descente particulièrement technique, qui est passé près d'un doublé au championnat de France contre la montre et course en ligne, et qui a échoué à la deuxième place derrière Arthur Vichot il y a tout juste une semaine. Sylvain Chavanel qui emmène avec lui 4 ou 5 coureurs, ils ont fait la différence,
il compte
une vingtaine de mètres d'avance.
Et à l'avant-garde du peloton, me semble-t-il, un coéquipier de Peter Sagan pour tenter de revenir sur ce groupe, car Peter Sagan était tout à l'heure annoncé dans le premier groupe.
Il y était effectivement. On aperçoit le Danois Jakob Fuglsang, le leader de l'équipe Astana, me semble-t-il, dans ce groupe. Et Sylvain Chavanel,
je pense qu'il a fait une erreur quand même, Sylvain Chavanel, d'attaquer à 7 km de l'arrivée. Il aurait dû attendre un petit peu, parce que à partir du moment où on est à 7 km, il y a quand même quelques attaques, comme le disait Cyril tout à l'heure. Il aurait dû attendre le dernier moment, le kilomètre, pour éventuellement pouvoir gagner cette étape.
Oui, parce que là l'écart n'est pas conséquent entre les 1, 2, 3, 4, 7 hommes de tête et l'avant-garde du peloton. Nous sommes à moins de 6 km de l'arrivée maintenant, Fred, et on se dirige vers l'arrivée avec des paysages magnifiques. On longe le bord de la Méditerranée, la route des Sanguinaires en direction de l'archipel des Sanguinaires, où sera jugé tout à l'heure cette arrivée, le paradis des oiseaux de mer et des dauphins aussi. Il y a plein de dauphins, paraît-il. Il y a aussi pas mal de méduses. Attention si vous allez vous baigner. Allez, on revient sur la course. 5 km 700
avec 6 hommes à l'avant de la course, dont Sylvain Chavanel qui fait mieux que la police. Il aide ses compagnons d'échappée à s'entendre. On l'a vu faire, comme disent les coureurs, une rétro-poussette avec un coureur de l'équipe Euskaltel afin de lui permettre de prendre un relais. Il est en train de faire de la gestion pour ses 34 ans. C'est son anniversaire aujourd'hui au coureur originaire de Châtellerault, qui a déjà remporté plusieurs étapes sur le Tour de France, notamment, on s'en souvient, à Montluçon ou même à Spa sous la pluie. Sylvain Chavanel, tout dans dehors, qui emmène un petit groupe avec 10 petites secondes d'avance sur le peloton à 5 km de l'arrivée. Apparemment, le peloton contrôle ce groupe d'échappés.
Faut-il y croire à cette échappée, Lucho? Tu fais signe de la tête que non.
Ouais, hein,
tu
crois pas, parce que bon, mais ils sont à 5 km de l'arrivée, il y a un petit écart quand même d'une dizaine de secondes, pardon. Mais par contre, quand ils vont rejoindre le dernier kilomètre, je pense que ça va se regarder un petit peu. Et à partir du moment où ils ont une très très faible avance, ça va revenir.
Cyril, tu partages la même analyse que Lucho? Ça n'ira pas au bout, cette histoire-là?
Je suis plutôt en attente de voir ce qui se passe, parce que ces 6 hommes, ces 7 hommes de tête ils ont tous la possibilité, compte tenu du classement par points, peut-être de prendre le maillot et de gagner l'étape. Et si on regarde bien, ils se relaient relativement bien dans ce groupe de tête. Et le peloton ne reprend rien. Alors il faut savoir aussi qu'on a un vent plutôt défavorable sur la route des Sanguinaires. Si c'est échappé, se relaie bien, je pense qu'au bout d'un moment, il n'y a plus que 2 équipiers pour Peter Sagan. Ça ne fait pas beaucoup quand même.
Allez, 4 km de l'arrivée avec un chien qui traverse entre l'échappé et le peloton. Attention, le peloton qui est en train d'arriver sur ce chien qui va peut-être provoquer un drame. Ça s'est passé. C'est passé de justesse à quelques centimètres pour ce petit Jack Russell de couleur blanche qui a failli voler la vedette au coureur.
Ils sont six. Accord le sanglier.
Voilà, là, vive le tour. 4 km de l'arrivée. Ils sont 6 à l'avant avec un Français, Sylvain Chavanel, à l'initiative de cette offensive, accompagné d'un Belge, Yann Bakkelands, coureur de l'équipe Radio Shack, un Espagnol, Juan Antonio Flecha, le Danois Jakob Fuglsang, leader de l'équipe Astana, également présent le Basque Izagir et un Italien, Mori, pour la formation Lamprey. Vous voyez qu'il n'y a que 2 stars dans ce groupe d'échappés. Juan Antonio Flecha, spécialiste des des classiques, déjà vainqueur d'une étape, c'était il y a 10 ans à Toulouse. Et puis Sylvain Chavanel, l'ancien champion de France, qui tente de s'offrir le plus beau des cadeaux d'anniversaire en ce 30 juin, lui qui fête aujourd'hui ses 34 ans. On est à 3 km de l'arrivée et ce groupe de 6 continue de bien s'entendre et compte eh bien une dizaine de secondes d'avance sur le peloton qui finalement a manqué de connaître une chute collective à 4 km de l'arrivée avec ce chien qui a traversé. On voit de tout sur les routes du Tour.
Avec une autre équipe qui prend le relais en tête de peloton, Fred, pour peut-être assurer le sprint.
C'est la Garmin, ouais, me semble-t-il, pour la simple et bonne raison que David Millar vise le maillot jaune. Oui. Lui qui a terminé quatrième hier et que les trois premiers du classement général, à savoir Marcel Kittel, Alexander Christophe et Danny Van Poppel, sont relégués à plus de 13 minutes maintenant en cette étape très accidentée. C'est-à-dire que David Millar, quatrième hier, peut, par le jeu de l'addition des places, peut revêtir, puisqu'on le rappelle, il n'y a pas de bonification depuis plusieurs années sur les arrivées du Tour de France, il peut revêtir le maillot jaune comme il l'avait fait en 2000, je ne sais plus en quelle année, au terme d'un prologue, je ne sais plus. Il faudra se retourner vers les fiches. En tout cas, on est à 2 km de l'arrivée et les Garmin sont en train d'emmener peut-être l'Écossais repenti du dopage. On aura l'occasion d'en reparler vers le maillot jaune. 2 km de l'arrivée, toujours 10 secondes d'avance pour le groupe de 6 emmené par un Sylvain Chavanel survolté qui s'attend à souffler ses bougies sur le podium d'arrivée. Pourquoi pas, lui qui fête aujourd'hui ses 34 ans.
Voilà, David Millar qui avait revêtu le maillot jaune, c'était en 2000. Il avait remporté la première étape, un contre-la-montre, et il avait ensuite porté ce maillot jaune durant 3 jours. David Millar qui, avec l'impulsion de ses coéquipiers, est en train de revenir. Mais non, hein,
il va pas falloir se regarder, ils sont à 5-6 secondes maintenant.
Ouais, ça revient un petit peu, me semble-t-il, avec des équipes qui se relaient. Cyril, alors maintenant, monsieur le druide, l'analyse, ça va aller au bout, ça va pas aller au bout.
Ça va être juste parce que les relances se font et puis devant on commence à se regarder, mais on n'est qu'à 1,7 km de l'arrivée. Tout le monde est encore frais dans ce groupe de tête.
Avec l'accélération de Yann Bakkeland, c'est un coureur très talentueux belge qui est passé par tous les échelons du cyclisme belge, équipe junior, équipe amateur de seconde zone, de première zone, avant d'être recruté par l'équipe américaine Radio Shack. Il tente, le jeune belge qui découvre le Tour de France, me semble-t-il, de fausser compagnie à Sylvain Chavanel et le basque Izagir. Il y en a un petit peu partout sur
ça
la route.
Regarde derrière, un peu.
Mais
ça
le peloton aura du mal à rentrer.
Attention, nous nous approchons de la flamme rouge. 1,1 km encore à parcourir et toujours ce belge de la formation Léopard qui est en tête. La flamme rouge du dernier kilomètre.
Intégral Tour, la flamme rouge.
Encore 1000 mètres et Bakkeland y croit, il a raison d'y croire, Fred.
Il s'est inspiré de son glorieux équipier Fabian Cancellara, le Suisse absent des routes du Tour de France. Yann Bakkeland, jeune coureur belge de l'équipe Radio Shack, est en train de fausser compagnie à Sylvain Chavanel, à Juan Antonio Flecha, à Jakob Fuglsang, à Gorka Izagir, et c'est lui qui va aller s'imposer ici sur la ligne d'arrivée à 500 mètres désormais au bout de la route des Sanguinaires au large d'Ajaccio. Yann Bakkeland qui va aller décrocher le plus beau succès de sa carrière. Bakkeland qui vient conforter un petit peu l'équipe Radio Shack qui sera reprise l'an prochain par le fabricant de cycles Trek, Yann Bakkeland, qui découvre avec plaisir, me semble-t-il, le Tour de France. Il se retourne, il peut bien se retourner derrière, on sprint avec l'Australien Simon Gerrans de l'équipe Orica Greenwich qui va tenter de remporter le sprint du peloton. Peter Sagan est sur la droite de la route, mais on va venir mourir sur les talons de Bakkeland. Yann Bakkeland, le Belge,
il n'en
croit pas ses yeux, il n'en croit pas. Il franchit la ligne d'arrivée avec une seconde d'avance seulement. Lui qui a 27 ans vient décrocher une victoire totalement surprise. Yann Bakkeland au palmarès amateur fourni bien sûr, mais sans aucune grande victoire dans les rangs professionnels. Vainqueur du Tour de l'Avenir en 2008, troisième du Tour du Luxembourg cette année, troisième du championnat de Belgique également, mais qui se révèle à lui-même et au grand public évidemment ici au terme de la deuxième étape du Tour.
Et il a bien eu raison d'y croire, Cyril, hein, il a bien eu il a fait un très beau numéro.
Oui, bah, je vous le disais, à 3-4 km de l'arrivée, je mettais un point d'interrogation sur la réussite de cette échappée, mais plutôt dans le sens qu'elle allait réussir, parce que les hommes étaient frais, ils sont sortis à 7-8 km de l'arrivée. Ça s'est un petit peu regardé, il a pris quelques mètres d'avance, il va chercher la victoire d'étape et bien sûr le maillot jaune. Et Peter Sagan qui termine deuxième, eh bien lui va prendre le maillot vert.
Voilà, donc victoire de Yann Bakelants, jeune coureur belge de la formation Léopard qui fait coup double, un peu à l'image de Marcel Kittel hier. Victoire d'étape et maillot jaune, hein, c'est pas rien quand même.
Et
hein.
Il a eu raison d'insister jusqu'au bout parce qu'il conserve une seconde, une toute petite seconde
qui
d'avance
la différence
sur le peloton et qui fait la différence parce que pas dit qu'au jeu de l'addition des places, Bakelants aurait été gagnant, même s'il s'était imposé ici sur la ligne d'arrivée. En face des îles Sanguinaires, en bord de mer, Bakelants, 27 ans, évidemment félicité par son leader Andy Schleck. Andy Schleck qui a presque déjà réussi son Tour de France puisqu'un équipier s'est imposé. Lui qui n'a pas de grandes ambitions, le Luxembourgeois apparemment est aux anges. Et Bakelants, lui, n'en croit toujours pas ses yeux. 27 ans.
Bakelants était 48.
Cyril, on a la réaction de Cyril Gauthier qui a bien failli réussir le coup. Il est avec Pierre-Yves Leroux.
Ouais. Cyril derrière la ligne avec le sourire, même s'il y a de la déception, on l'imagine, de ne pas avoir réussi ce pari avec cette attaque dans le salario.
Bah voilà, on a essayé, on a vu David, on a vu après Thomas, après Pierre et ensuite moi. Et voilà quoi. Si on est là, c'est pour essayer des choses. Et bah, quand ça va marcher, bah, ça marche pas.
Voilà, il y avait Jérôme Cousin déjà hier. C'était une montée très, très dure, très rapide. Vous avez cru à un moment que ça allait pouvoir passer?
Moi, j'aime bien ce genre de montée. Il fallait être placé. Ce qu'on a fait avec toute l'équipe, on s'est bien placé. Puis après, moi, j'ai vu que l'autre coureur avait démarré, donc j'ai essayé de prendre la roue. Puis voilà, quoi. Après, ça aurait pu sourire. Hein.
Merci beaucoup, la réaction de Cyril Gauthier. Juste derrière la ligne, on a vu passer Andy Schleck il y a quelques instants et qui a félicité bien sûr son compatriote et surtout son collègue d'équipe, son équipier. Il est là, Andy Schleck, à quelques mètres de moi. Je vais glisser le micro, mais je suis pas sûr que ça soit en français. On va,
non,
on va tester.
En bourgeois, ça va être difficile. Hein.
On va juste tester pour voir.
Non. It's really good for us, really good for him, and of course we will ride for it.
C'est très bon pour nous.
Voilà.
C'est très bon pour nous. Il a dit.
C'est très bon. En revanche, il y a Tony Galopin. Là, on va mieux comprendre et on va pouvoir aller le voir, Tony.
Oui, coéquipier de Backland.
Voilà, Tony Galopin qui est juste à côté, qu'on va pouvoir écouter dans un instant.
Belle journée.
C'est super. On savait qu'il y avait des opportunités aujourd'hui. Et voilà, quoi, ça a souri. Il a tenté, il était fort et il a fait un sacré numéro.
C'est un garçon qui n'avait encore aucune victoire professionnelle à son palmarès, qui participe à son premier Tour de France. Voilà, c'est le genre de choses qu'on n'oubliera pas et qu'il n'oubliera pas.
Non, c'est sûr, quand on commence un Tour de France comme ça, le centième comme ça, c'est un truc de fou. Et ce qu'il a fait, c'est encore plus fou. Donc je pense qu'il mérite et voilà, c'est un peu la consécration.
L'étape encore débridée. Hein. On pensait naïvement voir le peloton monter au train les trois ascensions. Ça n'a pas du tout été le cas.
Ouais, c'était un peu... C'était encore un peu, on ne savait pas trop le scénario qu'il pouvait y avoir. Il pouvait y avoir un sprint massif, une échappée qui allait au bout, ou comme ça, un final un peu de puncher. Donc voilà, c'était encore ouvert, un beau parcours aujourd'hui et on a eu une belle étape.
Vous pouvez nous donner juste un petit portrait de votre coéquipier qu'on ne connaît pas bien?
C'est un bagarreur, c'est un puncher et voilà quoi, c'est quelqu'un qui est toujours motivé et voilà, il l'a encore prouvé aujourd'hui qu'il pouvait faire de belles choses.
Merci Tony Galopin qui, comme beaucoup d'autres cyclistes, va repasser la ligne dans l'autre sens puisqu'il n'y a pas les bus des équipes ici derrière la ligne d'arrivée et il va donc retourner du côté d'Ajaccio et passer la ligne pour retrouver son hôtel.
Oui, comme dans certaines arrivées en montagne. Fred, on rappelle rapidement le résultat de cette étape avant de s'interrompre quelques instants.
Alors, victoire de Yann Bakelants, un jeune coureur belge de l'équipe Radio-Shack, coéquipier d'Andy Schleck et qui s'est inspiré un peu de son équipier à l'année, Fabian Cancellara, le Suisse, en démarrant dans les derniers kilomètres, accompagné de Sylvain Chavanel notamment. Chavanel qui a manqué de fêter son anniversaire de la plus belle des manières ici. Il n'est pas passé loin, Chavanel. Victoire de Bakelants, le Belge, devant le Slovaque Peter Sagan. Kilian et le Polonais Kwiatkowski de l'équipe Omega Pharma. Le premier français est Julien Simon, le coureur de l'équipe Sojasun. Sixième, Yann Bakelands qui s'impose avec une petite seconde d'avance sur le peloton et qui du même coup endosse le deuxième maillot jaune de ce centième Tour de France. Belle révélation au grand public et à lui-même parce que ce Bakelands a un tout petit palmarès.
Eh oui. Mais là, tout de suite, il a enflé ce palmarès.
Il remporte évidemment la plus belle victoire de sa carrière, lui qui avait remporté le Tour de l'Avenir en 2008.
Très bien, il est 17h29, vous êtes sur RMC, l'Intégral Tour revient dans une petite minute pour l'analyse de cette deuxième étape du Tour de France et ce magnifique paysage de la presqu'île, enfin de l'archipel des îles Sanguinaires. À tout de suite.
Intégral Tour, Christophe Cessieux.
L'Intégral Tour à l'issue de la deuxième étape du Tour de France qui s'est achevée il y a quelques minutes dans un paysage de carte postale ici à Ajaccio, tout au bout de la route des îles Sanguinaires. Magnifique paysage. Et avec toi, un vainqueur surprise plus exactement, Fred Adam, un jeune Belge de la formation Léopard Trek qui a surpris tout le monde et qui fait coup double une nouvelle fois ce soir.
La formation Radio Shack Léopard, on ne sait plus comment les appeler, cette équipe américaine
On va s'interrompre quelques instants car Pierre-Yves a un client, évidemment, Pierre-Yves Leroux.
Oui, il y a Maxime Montfort qui est tout près donc de cette équipe Radio Shack, un collègue, un coéquipier de Yann Bakelands, on va l'écouter.
Que voilà, il devrait pas. Si on l'a au chrono par équipe, on ne devrait pas avoir beaucoup d'avance, donc ce ne sera pas facile non plus de le garder. Mais bon, voilà, le maillot jaune, c'est un bonus, et même si c'est pour une journée ou deux, c'est du bonus pour l'équipe.
Tout le monde a beaucoup de liberté chez vous ?
Oui, tout le monde a de la liberté jusqu'au moment où un leader, on en a trois chez nous, va montrer qu'il est capable de grandes choses. Donc le tour commence réellement pour les grands leaders samedi et on va voir jusque-là. Mais bon.
Il y avait une volonté chez vous de durcir la course justement pour éliminer des gars comme Sagan ou des sprinteurs qui peuvent passer les bosses ?
Non, mais on a profité des opportunités. C'est pas nous qui avons durci la course, mais on a profité du. Le fait que la Française des Jeux notamment ait roulé fort, nous on était là derrière et tous présents dans l'équipe.
Tu disais Yann, il a pas tout à fait les mêmes sujets de discussion, il parle de quoi notamment, de quoi vous parlez Yann?
Oh mais ça c'est, on discutera demain, on va plutôt partir de la course.
Un mot sur Yann Bakelands peut-être, Maxime, est-ce que vous pouvez nous le présenter un petit peu?
La télévision. Hein.
Ok, et c'est la télévision qui va prendre le relais, donc on va laisser Maxime répondre à nos collègues.
Ah non mais les Belges ils rigolent pas, hein. Les Belges, Georges Quirino sur le Tour des Flandres. Alors, par contre quand ils sont en France, ils interrogent les coureurs français, mais si tu veux interroger un coureur belge, faut demander l'autorisation en trois exemplaires. Autrement, et puis alors si tu le fais pas en flamand, encore plus, alors là c'est pire. Fred, on revient donc sur la course.
Ils sont tellement fans de vélo qu'on leur pardonne bien volontiers. Ils adorent leurs coureurs, les Belges. Yann Bakelands.
Surtout les flamands.
Yann Bakelands, donc 27 ans, coureur belge de la formation Radio Shack Léopard, vainqueur du Tour de l'Avenir il y a déjà 5 ans, vient remporter la plus belle victoire de sa carrière ici à 12 km d'Ajaccio face aux îles Sanguinaires en bout de route là-bas en haut de la péninsule. C'est magnifique, au bord du golfe d'Ajaccio. Il devance sur la ligne le Slovaque Peter Sagan qui est pas passé loin du jackpot, mais non, Bakelands a conservé une seconde d'avance sur Sagan, sur le Polonais Kwiatkowski.
Ah, pas facile ça,
oh, celui-là il est pourtant champion,
il est pour Vincent Moscato celui-là, on va lui garder.
Julien Simon est le premier français. Sachez que les sprinteurs sont très loin aujourd'hui. Ils n'ont pas encore franchi la ligne d'arrivée à plus de 12 minutes du vainqueur du jour, Yann Bakelands. C'était une étape de haute montagne entre Bastia et Ajaccio. Yann Bakelands, vainqueur pour une seconde. Et comme hier, tout le monde a été classé dans le même temps, eh bien Bakelands, le Belge de l'équipe Radio Shack Léopard, est le deuxième maillot jaune du centième Tour de France ce soir.
Et le deuxième maillot jaune surprise, Cyril. Hein, Ah oui, il arrive, il est où? Ah, il est là, il nous rejoint au camion. À un moment, il abandonne son poste. C'est abandon de poste. Lucho, lui, reste là fidèle au poste. Ça fait deux maillots jaunes surprises en deux jours, tout de même. Hein.
Ben oui, de toute façon, on s'attendait à voir un sprinter dès la première étape prendre le maillot jaune. Donc, c'est pas une surprise.
Toi, tu n'as pas été surpris puisque
Mais c'est pas une surprise de voir Kittel gagner puisque c'est un sprinter. Après, c'est vrai que la surprise du jour, c'est ce Belge qui remporte l'étape et qui a saisi l'opportunité à un peu plus d'un kilomètre de l'arrivée, voyant le peloton revenir sur son groupe d'échappée, de contrer tout le monde. Ça s'est regardé et il a pris suffisamment d'avance pour pouvoir pouvoir remporter cette étape, mais vraiment, il a employé une tactique magistrale, tant mieux pour lui. En plus, il récupère le maillot jaune, et ben là, il a gagné son tour, il a rempli son rôle d'équipier et de coureur, et son rôle est rempli sur le Tour de France, son objectif est rempli, parce que voilà, c'est parfait pour lui. Et même pour l'équipe Radio Shack.
C'est jackpot.
Oui, parce que
une victoire d'étape, c'est magnifique. Le maillot jaune en plus, alors,
bien sûr,
cerise.
Parce que au cas où, ses leaders se plantent complètement sur ce Tour de France, eh ben au moins Radio Shack ne sera pas passé inaperçu sur la grande boucle.
Yann Bakelants, originaire d'Oudenaarde, donc dans les Flandres.
Ça fait beaucoup le nom et puis la ville.
Et encore, c'est pas Kwiatkowski qui a gagné.
Oui, c'est vrai aussi. Ouais.
Oudenaarde, c'est donc bel et bien dans les Flandres, et Maxime Montfort et Yann Bakelants, s'ils sont compatriotes et coéquipiers au sein de la formation Radio Shack Léopard, ont peut-être quelques problèmes de communication parce que l'un parle flamand et l'autre français, a priori.
Oui.
Mais bon, on est jeunes, on a fait des études et ils savent s'adapter.
Exactement. Pierre-Yves est sur la ligne d'arrivée, on va essayer de voir ce qu'il en est, parce que la course n'est pas encore terminée, Pierre-Yves. Hein.
Non,
il y a du beau monde qui n'est pas encore là.
Oui, on vient de voir passer Greppel dans un premier groupe, donc les sprinteurs battus aujourd'hui, et puis quelques coureurs français comme Jérôme Coppel également. Et là, c'est un peu plus surprenant.
Aïe.
Surprenant, non.
Et il a chuté hier.
Il a chuté, c'est vrai.
Il a été blessé hier. C'est intéressant d'avoir son avis, qui était l'un des co-leaders de cette formation Cofidis.
Avec Rein Taramae qui avait également chuté hier. Eh bien, Coppel ne visera une nouvelle fois pas le classement général sur le Tour de France. Et lui qui était pourtant promis à un grand avenir il y a encore 3-4 ans, et qui, le pauvre, est en train de se louper un peu. Place aux victoires d'étape maintenant pour Jérôme Coppel.
Voilà, Christophe. Oui. Il y a également Jean-René Bernaudot, qui lui n'était pas en vélo, hein, on le précise évidemment, qui est en train de répondre à quelques confrères. Je vous propose de glisser le micro.
Allez, on y va.
Jamais on récupérera ce qui a été volé. Aujourd'hui, les Français sont acteurs. Vous savez que quand on est acteur, par rapport à quand on subit, eh bien, écoutez, la différence, elle est là.
Merci. Jean-René, vous êtes montré encore aujourd'hui avec Cyril Gauthier il y a quelques instants. On l'a vu sur les écrans sur cette fin d'étape. C'est quoi? C'est la déception quand même de que ça fonctionne pas ou?
Ça fonctionne bien. Quand on est à la Coupe du Monde, c'est la plus grande course du monde. Tout le monde veut gagner. Les meilleures équipes sont là avec les meilleurs coureurs. Il y a 22 meilleures équipes du monde. Il y a 21 vainqueurs à Paris. Pour l'instant, le tour nous réussit. On est loin de l'arrivée. Mais on va continuer à essayer pour avoir plus de chances d'en remporter une.
C'était la consigne, de toute façon, avant ce début du Tour de France. Votre consigne, montrez-vous. Il faut oser.
Non, rien n'est écrit d'avance. Il y a trois coureurs qui débutent. C'est Veilleux, Reza et Cousin. Deux ont été dans l'échappée au bout de 2 jours. C'est pas mal. Il manque plus que Kevin Reza pour aller dans une belle. Et puis voilà.
L'état d'esprit de cette équipe vous satisfait sur ce début de Tour de France, Jean-René?
Oui, l'état d'esprit me convient parfaitement, et ça, ils montrent vraiment la vraie valeur de l'équipe aujourd'hui. Ce sont des combattants qui ont du toupet, du culot et de l'audace.
Merci.
Des nouvelles d'un repreneur, Pierre-Yves?
Des nouvelles d'un repreneur, Jean-René qui est en train qui commence à se battre, je vous rassure, avec les motards du Tour de France. Jean-René, une petite question quand même sur le repreneur, parce qu'on n'en a pas trop parlé encore avec vous. Qu'en est-il?
Pour l'instant, rien, pas de nouvelles pour l'instant, il n'y a rien.
Mais des rendez-vous à venir?
Oui, bien sûr, oui, régulièrement, oui. Mais bon, le Tour de France, on ne va pas vous annoncer qui vient, mais voilà, on avance.
Et vous serez là l'année prochaine?
Oui, on ne sait pas à quel niveau, mais on sera là.
Merci Jean-René d'avoir répondu à ces questions.
Le maillot jaune qui va en terminer dans quelques instants. Le groupe maillot jaune, et ils sont nombreux, hein, Fred, il n'y a pas qu'un seul coureur, ils sont très nombreux dans ce groupe Eto, cet autobus qui est en ligne, en vue de la ligne.
Oui, avec Gerd Stegmans et Mark Cavendish, me semble-t-il, voilà. Qui est là. Marcel Kittel, le maillot jaune. Tony Martin, le coéquipier allemand de Cavendish, qui est sévèrement tombé hier et qu'on a vu tout sourire tout à l'heure. Donc
on va essayer avec Pierre-Yves de prendre des nouvelles, notamment de Jérôme Coppel, puisqu'il nous l'a annoncé tout à l'heure. Jérôme Coppel, le leader de la formation Cofidis, qui a priori fait partie de ce groupe. Pierre-Yves, est-ce que tu as vu d'autres têtes connues du peloton dans ce groupe Eto arriver avec
Alors je vous disais pour l'instant Greppel qu'on a aperçu. Pour les autres, c'était plutôt des hommes de second rang. Et dirons-nous, il y a Chris Froome, lui qui est en train de pédaler tranquillement sur un vélo après cette étape.
étape et qu'on pourra peut-être entendre dans quelques minutes, mais pour l'instant il est sur un vélo et je vais essayer de remonter un peu cette file aussi pour avoir des nouvelles de Jérôme Coppel, pourquoi pas dans quelques instants.
Très bien, allez, on va se quitter quelques instants, c'est l'heure du jeu Tour de France RMC. Aujourd'hui je vous offre la possibilité de gagner votre place VIP pour assister à l'étape de vendredi entre Montpellier et Albi, vos billets de train, la nuit en hôtel 4 étoiles la veille de l'étape, le survol en hélico d'une partie de l'étape puis dans une voiture de l'organisation, déjeuner et accueil dans le car VIP, bref un magnifique cadeau et une journée de rêve pour tous les fans du Tour de France. Pour tenter de gagner ce superbe pack cadeau, vous envoyez le mot-clé RMC par SMS au 732-16. Bonne chance.
Intégral Tour, Christophe Cessieux.
L'Intégral Tour qui fait escale ce soir à Ajaccio avec un panorama de cartes postales. Nous sommes tout au bout, près de l'archipel des Sanguinaires. C'est vraiment superbe. Tout de suite, on va retourner sur la ligne d'arrivée. Pierre-Yves Leroux est avec le directeur sportif de l'équipe Sky, Nicolas Portal.
Nicolas Portal, qu'on écoute tout de suite.
Ça s'est bien passé. Évidemment, le but, c'était vraiment d'être sûr que tout le monde arrivait dans le même temps et puis à se méfier du final avec le coup de pétard, comme on dit, là, dans les kilomètres qui était vraiment difficile. Et puis une arrivée un peu compliquée, 10 km, le vent qui tourne, des fois il était venu de la gauche, de la droite. Donc voilà, pour le classement général, on voit que c'est toujours un petit peu nerveux. Toutes les équipes ont été un peu nerveuses, donc je pense que Chris a profité un peu du train de Richie et voilà, il se sentait bien, il a pris que les devants, il a passé à la descente parfaitement parce qu'elle était vraiment vraiment dangereuse. Puis après il s'est relevé et il s'est mis dans les roues, donc non voilà, ça c'est une très bonne journée pour nous.
C'est une véritable attaque ou pas?
Non, c'est pas vraiment une attaque, vous savez, c'est dans le final quand on se sent bien, enfin, ça m'est jamais arrivé comme ça, mais bon, ça m'est arrivé dans d'autres courses, à d'autres niveaux. Voilà, c'est sûr, voilà, il se sent bien, ça lui a pas coûté énormément d'efforts pour lui de faire ça, il s'est isolé, il s'est mis hors de danger. Je pense que c'est parfaitement bien joué tactiquement.
Voilà, Nicolas Portal qui analyse cette bonne journée pour les Sky et notamment pour Chris Froome. Tu me dis, Christophe, si on a un petit peu de temps,
on a du temps. Vas-y.
Le micro à Alain Galopin, directeur sportif lui d'une autre équipe, Radio Shack, aujourd'hui vainqueur avec cette deuxième étape.
J'avais Kim Andersen. Hein. Surtout, il n'avait pas vu au début qu'il avait fait un trou, quoi. Et on l'a poussé, quoi. Mais ce qu'il a fait, il faut être très fort parce que Backlund, c'est un type très très fort. Très très fort, mais très dur à coacher aussi, hein. Très très dur à coacher. Et ben j'ai expliqué aussi déjà à vos collègues que c'était un type qui il a eu des problèmes de genoux au début de l'année et il a assisté pour recourir en Romandie il y a 2 mois. Et moi j'étais le directeur sportif là-bas, j'ai dit écoute reste calme, il m'a pas écouté, la douleur est revenue et après il s'est reposé. Il a fait un camp d'entraînement et là il a fait aussi un peu n'importe quoi où la douleur est encore revenue et après on s'est vraiment fâché quand je l'ai sorti de la sélection pour le Dauphiné. Il me dit oui, j'ai ma sélection pour le Tour, j'ai aucune chance. J'ai dit tu fais Giepingen, tu t'entraînes, tu fais Giepingen, tu fais Luxembourg et après on verra.
C'est un caractériel quoi.
Comment ?
C'est un caractériel un peu chien fou.
Je dis pas que c'est pas un chien fou, c'est un type très sympa, très gentil, très collectif, parce que contrairement à certains qui disent que c'est pas un type collectif, c'est pas vrai, on l'a vu hier et c'est lui qui remonte Tony et Claudie juste avant que ça tombe, quoi. Bah, il a remonté dans les premiers, il est fort, c'est un type qui est fort, il est fort, il est très fort, il a pas vraiment conscience de ses capacités, quoi. Donc c'est vrai que, et c'est un type aussi très attachant. Moi, je suis vraiment content aujourd'hui pour lui. S'il y a vraiment un coureur que je suis content de la réussite aujourd'hui, c'est Yann Backlund. Ouais.
Merci beaucoup. Voilà, réaction, le sourire hein, d'Alain Galopin pour son coureur.
Et on le comprend, Cyril, parce qu'il fait coup double aujourd'hui. Notre ami Backlund, un chien fou, nous disait Pierre-Yves, un garçon attachant. Mais c'est vrai que quand on a l'ambition d'être sélectionné sur le Tour, on est prêt à tout presque. Hein.
Peut-être pas prêt à tout, peut-être que certains, mais bon, vous savez, c'est un coureur qui a donné beaucoup d'espoir à l'époque où il était amateur, et puis qui n'a pas véritablement confirmé sa première belle et grande victoire depuis qu'il est passé professionnel. On savait que c'était un type de qualité. Aujourd'hui, avec beaucoup d'opportunités, il va chercher cette victoire d'étape et le maillot jaune. Alors, vous savez, on avait eu un débat il y a 2 ans, est-ce que le maillot jaune rend fou? Je crois que quand vous avez le maillot jaune, vous devenez toujours très sympathique.
D'accord. Les leaders sont sympathiques. Voilà. Cyril, un mot sur Sylvain Chavanel qui a loupé le coche une nouvelle fois aujourd'hui, qui avait, semble-t-il, la bonne jambe, qui était dans le bon coup, dans les 6, et qui s'est fait surprendre par la sortie de Backlund.
Oui, Backlund n'est pas véritablement sorti. Hein. Quand il part, ça commence à flotter. Il y a encore 8 à 10 secondes. Les coureurs tournent. Alors c'est vrai que dans ce groupe de 6, Chavanel s'est positionné en position de leader de ce groupe pour l'organiser, et cette position n'est jamais très bonne. Il vaut mieux être alors effectivement gentil, un petit peu caché, et Backlund a pris 5 ou 6 mètres sans véritablement attaquer. On s'est regardé un petit peu derrière. Bon, il a mis le coup de gaz à partir de son là, il a pris 80-100 mètres. Derrière, c'était fini pour le groupe Chavanel. Alors c'est vrai que Sylvain a peut-être raté le coche, parce que si c'était arrivé au sprint, je pense qu'il était l'un des plus rapides de ce groupe. Mais il s'appelle aussi Chavanel, et quand on a une pancarte dans le dos, c'est pas toujours évident.
Chavanel qui a fait un beau cadeau à Yann Bakelant en le propulsant à l'avant de la course. Chavanel qui lui fêtait son anniversaire aujourd'hui, les 34 ans.
Pas de cadeau pour Sylvain.
Il est toujours aussi généreux, Sylvain. Merci à lui.
Mais oui, malheureusement, il passe souvent à côté de grandes victoires, Lucho. Hein. Sylvain Chavanel, c'est un formidable moteur, un superbe coureur.
Il a un très beau palmarès, Sylvain.
Oui, il a un très beau palmarès. On a l'impression que ce palmarès pourrait en avoir un meilleur,
mais c'est vrai qu'aujourd'hui il aurait jamais dû attaquer à 7 km de l'arrivée. Là ça roulait bien, ils étaient bien ensemble, ça s'entendait bien. Bon, malgré tout, c'est vrai qu'il y avait 10 secondes d'avance sur le peloton. Mais ceci dit, il avait une chance, il fallait attendre, parce que pour gagner l'étape comme celle d'aujourd'hui, il fallait être un petit peu attentiste, ce qu'a fait le Belge, et il s'en est très très bien sorti.
Très bien. On rappelle donc le classement de cette étape, Fred, et on va s'interrompre quelques instants.
Victoire du Belge Yann Bakelant, jeune flamand de 27 ans de l'équipe Radio Shack Léopard. Il garde une seconde après une dizaine de kilomètres d'échappée à peine sur le bord de mer au loin d'Ajaccio en face des îles Sanguinaires. Il devance donc Peter Sagan, le Slovaque, et le Polonais Michal Kwiatkowski. Le premier français, c'est Jérôme Simon, sixième de l'étape et troisième du général, où Bakelant est en jaune. Bakelant est en jaune devant David Millard et donc Julien Simon.
On a Pierre de Roland en direct, hein, qui a été aussi des instigateurs. Il est en direct avec Pierre-Yves.
Maillot à poids.
Avec Jérôme, aujourd'hui avec moi. Enfin moi, il y avait David, Thomas, Cyril, moi. Ben, voilà, on a tenté avec plusieurs personnes et plusieurs choses. Et bon, demain j'aurai le maillot à poids, j'en suis très fier. C'est la première fois que je le porte et c'est un maillot qui a une valeur particulière pour moi.
C'est un super maillot, c'est le numéro 51 en plus, qui est un numéro extraordinaire.
Oui, quand j'ai appris ça, j'étais vraiment très très content. Le 51 a beaucoup brillé sur le tour. Voilà, c'est le 51 sur le maillot à poids. Peut-être que je vais le garder demain soir, même si je l'ai plus. Peut-être je le laisserai tel quel.
Voilà, parce que vous nous disiez, c'est pas forcément un objectif en ce début de tour. L'objectif, c'est d'être dans les premiers de ce Tour de France.
L'objectif premier, c'est de sortir de la Corse sans encombre. Et donc, il reste une étape demain qui est très compliquée. Je pense que c'est celle que tout le monde redoute le plus. Aujourd'hui, il a fait chaud et c'est la première fois. Et on voyait bien que les organismes étaient assez fatigués à la fin quand même.
Ça veut dire que là, vous êtes bien, vous vous sentez bien pour ce Tour de France. Ça y est, vous êtes dedans.
Ah bah oui, on est dedans. Je l'ai dit, que j'avais dit à la première conférence de presse qu'il fallait être à 100% dès le début avec les difficultés qu'il y a ici en Corse. Et bon, ça, pour l'instant ça va. Après, encore une fois, demain c'est une journée très compliquée.
Vous avez fait peur aux autres leaders en attaquant, hein ?
Non, je pense pas. Il y avait vraiment beaucoup de plats derrière, et puis j'ai juste fait la première partie de la descente à ma main pour au moins j'étais pas embêté par des chutes, par des ennuis. On avait repéré cette étape, on savait qu'il y avait pas mal de virages qui se refermaient, etc. Après, dès qu'on est arrivé sur les grandes routes, je me suis relevé, bien mangé, bien bu. Je savais que j'avais aucune chance d'aller au bout.
Vous gardez jusqu'au bout le maillot à poids ?
On n'en est pas là.
Voilà, Pierre Roland qui réagit donc pour la première fois avec ce maillot de meilleur grimpeur.
Qui était l'an dernier sur les épaules de son coéquipier Thomas Vauclair. Ils aiment bien le maillot à poids. D'ailleurs, c'est le maillot presque préféré des Français, parce que c'est le maillot que les coureurs français portent le plus depuis des années. Le maillot jaune, ils ont du mal à le garder, les coureurs français. Très bien, donc on rappelle la victoire de Yann Bakelant, le coureur de la formation Radio Shack. Il est ce soir nouveau leader de ce Tour de France avec une seconde d'avance sur David Millard. Le maillot vert du classement par points est toujours sur les épaules de Marcel Kittel, qui portait hier le maillot jaune mais qui est arrivé avec un retard conséquent. Maillot à poids donc sur les épaules de Pierre Roland, et le maillot du meilleur jeune, le maillot blanc, sur les épaules de Kaftowski, le Polonais. On va se retrouver dans quelques minutes pour la suite de l'intégrale Tour. Ce sera l'intégrale sport avec Virginie Fulpin.